quand même mieux que son collègue. C'était un certain lieutenant Gorman, hein, lieutenant Gorman qui était lui un pilote. Ça c'est marrant parce que ce pilote, il avait formé les pilotes français pour la Deuxième Guerre mondiale. Hein, il les avait entraînés. Donc c'était encore un instructeur, un type qui était chevronné quoi. Et en pleine nuit, bah il s'est trouvé en retour de mission à bord encore d'un P51, d'un F51 Mustang. Alors là, il s'est trouvé qu'on peut dire combat aérien contre une boule lumineuse. Et ça, c'est quand même assez fabuleux parce que là pendant plusieurs minutes, il s'est vraiment battu contre une espèce de boule lumineuse.
Donc un rapport officiel.
Un rapport officiel, bien sûr.
Retrouvé 40 ans après par tes soins, Bernard, ou
Pas uniquement par mes soins. Ça, par contre, cette affaire-là a été médiatisée. Donc là,
on a médiatisé un pilote de l'armée, hein, s'est battu contre une boule verte, hein, dans les airs. Ils n'en ont pas fait de film. Non, j'ai pas vu de film là-dessus. Mais comment a réagi le public? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a laissé passer quelque chose d'aussi gros? Peut-être parce que, justement, c'était tellement gros que ça pouvait décrédibiliser le phénomène extraterrestre et les laisser tranquillement. Je dis « les », hein, évidemment, je parle pas de conspiration, mais bon, laisser tranquillement les gens qui travaillaient sur ce sujet travailler et laisser à la presse le côté grand spectacle, une boule verte contre un avion de chasse.
Disons que les boules vertes, on les retrouvera plus tard, et en France, on en reparlera. En fait, les boules vertes, on les retrouvait surtout à cette époque-là, un peu partout, et c'était devenu véritablement une idée fixe d'essayer de savoir qu'est-ce qu'a fait ces boules vertes. Alors, on a demandé à un scientifique qui était un expert en météorites, s'appelait Lincoln LaPaz. Lincoln LaPaz appartenait à l'université d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, c'est toujours au Nouveau-Mexique. De toute façon, tout ce qu'on raconte, ça se passe aux États-Unis, mais principalement, toujours, aux endroits les plus sensibles, c'est Los Alamos. Nouveau-Mexique, c'est Albuquerque, c'est à côté. C'est Albuquerque, Roswell, tout ça, c'est un vrai triangle. Et on a toujours, White Sands est également au Nouveau-Mexique, c'est là où on expérimente les V2. On a récupéré tout un tas de V2 des Allemands, et on a récupéré aussi les savants qui allaient bien, et on les a fait venir aux États-Unis. Et puis, y avait Werner von Braun parmi ces gens-là. Et puis, ils ont tous été confrontés au problème, parce que les ovnis, ils en ont vu. Ils en ont vu, et ils nageaient tous dans la... Complètement, il ne savait pas ce que c'était.
Ce pilote qui s'est battu en quelque sorte contre cette boule verte, il s'est battu, c'est-à-dire il a essayé de lui échapper, il a essayé d'être plus rapide, il lui a tiré dessus.
Il ne lui a pas tiré dessus, mais enfin bon, s'il avait pu tirer dessus, je crois qu'il l'aurait fait. Mais il était... Alors il y avait, bien sûr, c'était assez surréaliste, parce que puis la tour de contrôle, les gars, ils voyaient qu'il essayait de comment on dit,
De la mettre en mire,
il essayait un petit peu c'était un challenge. C'est, tu sais, un pilote de chasse, c'est un joueur d'échecs en quelque sorte, hein. C'est un sportif. Donc pour lui, le ciel c'est son dojo, hein. Donc il essaye de faire, c'est un peu comme des arts martiaux.
Mais c'est pas une boule verte qui va l'embêter quand il est dans son
domaine. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans mon domaine, et c'est ça. Je crois que le véritable esprit d'un pilote de chasse, c'est ça. Donc il réagit comme un pilote de chasse.
Alors tu me dis que ça a été connu par la population, ce fait.
Réaction, médiatisé.
Réaction de... On pensait à autre chose à cette époque-là?
Non, on pensait pas à autre chose. On parlait du phénomène et puis on...
Et puis c'est marre.
C'était le témoignage pur. Et puis après, ça retombait dans le marécage du silence. Parce qu'il n'y avait aucune réponse qui était apportée à ce truc-là. Mais c'était vrai. Tout le monde, il y avait des témoins. Il n'y avait pas que Gorman. Gorman, le pilote, avait poursuivi cette boule lumineuse. Mais il y avait également un autre avion qui volait dans les environs. Les pilotes ont vu exactement la même chose. Donc, il y avait cohérence de témoignage. Donc, le gars n'était pas tout seul à rapporter ce qu'il avait vu. Il l'avait poursuivi, mais il y avait d'autres gars qui avaient dit « Oui, c'est vrai, nous, on a tout vu. »
Mais il y a quand même des gens, à notre époque, il y a beaucoup de groupes, groupuscules ou autres qui se réunissent, qui parlent d'OVNI, nombre d'ufologues. ça a dû commencer à beaucoup parler sur ce sujet aux États-Unis et dans le monde entier. On a dû commencer à voir se former quelques groupes, des gens qui remettaient en cause. Non, pas tout de suite.
Non, pas tout de suite. Ça s'est passé au cours des années 50. On peut dire à partir de 1950. Là, on a eu vraiment l'association. Non, au départ, on pouvait penser qu'il s'agissait là d'un phénomène inconnu, qu'on aurait pu expliquer d'une manière ou d'une autre par des scientifiques, par des phénomènes lumineux. Mais on n'avait pas de réponse tangible. Et puis, on n'avait pas de preuves, on n'avait rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dès 1948-49? On voyait des boules se balader, et puis c'était véritablement à une fréquence, je pourrais qualifier de quotidienne. Donc ça veut dire en d'autres termes qu'on s'est préparé, on a installé des caméras, on a installé des signes théodolites. Parce que bon, il est bien évident que quand on voyait qu'il y avait des survols pratiquement tous les soirs, c'était pratiquement comme l'express de 15h47, on savait que les boules allaient venir. Et donc on s'est installé, on a installé des films, et mieux encore, on avait préparé des avions prêts à décoller à la moindre alerte avec des sondes pour aller dans le sillage de ces boules vertes pour essayer de recueillir des échantillons de ces objets.
Bernard, tu t'attardes énormément sur les années 47, ouais. 48, ouais. 49. Serait-ce la base, la genèse des ovnis?
Absolument. Oui. Elles sont déterminantes. Ce sont les années les plus riches, et ce sont, je crois, pour le phénomène, d'abord les plus riches en matière de documents, parce que ce sont des documents...
Avant la censure, on va dire.
La censure est intervenue en 53. Mais je dirais que ce sont ces années qui sont les plus riches. Scientifiquement, et là on a des données, on a des témoignages. On n'a pas la chape de plomb comme on aura après. Et cette chape de plomb, elle sera malheureusement dictée par la CIA. Hein? Donc on a une montée en puissance du phénomène, on le comprend, aux États-Unis principalement. Et c'est les alertes atomiques, c'est tous les centres, je dirais, et puis ça continue en 49. Puis alors en 49, on a un astronome. Pas n'importe lequel, hein, le découvreur de la planète Pluton, Klein Tombeau, c'était celui qui avait découvert la planète Pluton. Et je crois que lorsqu'on a eu son témoignage, on a dit, mais c'est pas possible, ce gars, on ne peut pas mettre en doute son témoignage. Hein, c'était en février 1930, celui qui avait découvert la planète Pluton. C'est quand même pas le roi des imbéciles. C'était un astronome, au-delà de... Parce que c'est vrai que c'était quasiment prix Nobel, quoi. Je dirais qu'il avait fait une découverte fondamentale, la 9e planète du système solaire. On pouvait pas remettre en doute ce gars-là. C'est pas possible. Il emmerdait tout le monde, ce type-là. Parce que ce qu'il amenait, il disait, moi j'ai vu des ovnis, ou j'ai vu un ovni, en plus, et il a fait un descriptif d'astronome, et le problème, c'est qu'il a été comme les autres. C'était pas parce qu'il connaissait mieux le ciel que les autres, il n'a pas réagi comme les autres. Eh bien, il a réagi comme les autres, comme Madame Tout-le-Monde, comme Monsieur Tout-le-Monde. Il a vu ses carrés lumineux lui passer au-dessus de sa maison, à Las Cruces, toujours au Nouveau-Mexique, comme quoi, hein, les ovnis se retrouvaient toujours au Nouveau-Mexique. Las Cruces, c'est pas loin de White Sands, là où on expérimentait les V2, mais c'est comme Félix Potin, on y revient, hein. C'est toujours au même endroit. Et alors, ces ovnis, alors il y avait sa femme qui était avec lui, il y avait, sa belle-mère ou sa mère, de mémoire, comme ça. Ils étaient trois à voir la même chose. Ils ont été trois à voir la même chose. Alors évidemment, avec... et lui, complètement estomaqué, complètement stupéfait par ce qu'il voyait. Il n'avait jamais vu un truc pareil. Alors tu imagines un astronome qui ne peut pas expliquer ce qu'il voit. C'est pas des étoiles. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est pas des étoiles filantes. C'est pas des bolides. Exactement la même réaction que connaissait Arnold. Quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et à partir de cet instant-là, je crois que 49, 50, alors le fameux La Paz, 19 mois passent, les semaines se ressemblent, c'est toujours la même chose. Les avions récoltent des échantillons, bien sûr, parce qu'ils décollent en alerte. Ils vont dans le sillage des boules vertes. Ils ramènent des échantillons, ils ramènent des analyses. Nickel, chrome, tout ça c'est sur les rapports. Personne n'en a parlé.
Des échantillons, des analyses, c'est-à-dire ?
Eh bien, c'est des échantillons de ces boules vertes qui explosaient, parce qu'on les voyait exploser. On pensait que c'était une météorite qui avait des trajectoires dites intelligentes, c'est-à-dire des trajectoires qui étaient plutôt ascendantes. Une météorite, elle tombe, elle ne remonte pas. Hein.
D'habitude, c'est ce qui se passe.
Hein. Ah oui. Ouais. Et c'était bien ce qui les gênait, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune explication rationnelle.
Mais pendant toutes ces années-là, pas d'autres phénomènes de crash ?
Non.
On n'en parlait plus, c'était...
Heureusement, non. Heureusement, non. L'affaire Mantel a été véritablement, je crois, un cas atypique et malheureusement dramatique de l'affaire des ovnis. Heureusement, ce n'était pas quand même chose courante. Heureusement.
Alors, on en est à environ 1950, tu me dis les mois passent, les années passent.
Ouais.
Pour l'instant, on parle de cas qui ont été vus par des pilotes, par des personnes qui sont dans des tours de contrôle, par un policier, par certaines personnes de la population, qui n'avaient pas de connaissances particulières, mais qui ont vu ces événements. J'aimerais qu'on s'attarde un instant, tu me dis si je me trompe dans la date, hein, c'était en 1952, un survol d'une grande ville, c'était quelle ville ?
C'est Washington.
Washington, survolé,
ouais.
Mais carrément.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Eh bien, comme toute gesticulation militaire, parce qu'on peut parler d'une gesticulation militaire en matière d'OVNI, la gesticulation militaire, c'est quelque chose qui est connu et qui fait partie de toutes les écoles de guerre. C'est-à-dire on tape l'adversaire et on montre sa puissance. C'est ce qui se passe partout. Même à l'heure actuelle, quand tu as des conflits, c'est exactement ce qui s'est passé pour les ovnis. Ça, les gens ne le savent pas. Mais en fait, et c'est là que... En fait, tout ça, si tu veux, c'est ça. Graduellement, ça montait. Et on se posait la question de savoir jusqu'où ils iraient. 50, c'est la guerre de Corée. Ok ? En Corée, il y a eu des ovnis. Ok ? Ça veut dire, en d'autres termes, que le phénomène, désormais, il ne suivait pas uniquement les États-Unis, devenu mondial. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, mais pas si étrange que ça, finalement, il suivait également les événements. Quelquefois, il les devançait. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, ils savaient où étaient les points chauds, là où se passaient les événements. La guerre de Corée, c'était ça. On était à deux doigts de la Troisième Guerre mondiale, et on voulait utiliser l'arme atomique en Corée. MacArthur, c'est ce qu'il voulait faire. Et là, en 1951-52, qu'est-ce qui se passe ? On a un certain Edward Teller, toujours un ancien du projet Manhattan, qui travaille d'arrache-pied pour doter l'Amérique de la première bombe H, la bombe à hydrogène. Et là, je crois qu'on a touché quelque chose qui était un point de non-retour. Et cette montée en puissance qu'on a du côté des ovnis, on la retrouve en parallèle par rapport aux événements qui se déroulent. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est un fait. Il faut mettre simplement par comparaison un événementiel, une chronologie. Et là, elle coïncide parfaitement. Et là, il y avait un officier, pour faire une petite parenthèse rapide, il s'appelait Edward Ruppelt. C'est un capitaine, un jeune capitaine, brillant, très brillant. Il avait été nommé, à l'époque, à la tête d'un projet qui avait succédé au projet Sign, d'abord en s'appelant Projet Grudge, rancune. Alors pourquoi on avait rebaptisé le signe? Donc des signes dans le ciel ou peu importe, grudge, rancune, rancœur, peut-être à cause de Mantel, je ne sais pas. Personne ne sait pourquoi on a rebaptisé ce groupuscule rancœur. Et après on l'a rebaptisé Blue Book, livre bleu. Pourquoi livre bleu, j'en sais rien, personne ne le sait. En revanche, le type qu'on a nommé à la tête de cette commission, c'était un type qui était un jeune bombardier navigateur de B-29, qui était redevenu civil, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a réintégré les réserves, et comme on était en pleine guerre de Corée, on avait besoin des réservistes, et on a nommé ce gars-là, qui était un ingénieur en aérodynamique, encore un, on l'a nommé au service de renseignement. Et il était spécialisé, entre autres, dans l'étude des avions de chasse russes. Et à l'époque, l'avion de chasse russe qui faisait peur à l'US Air Force, c'était le MiG-15, un avion en réaction avec des ailes en flèche, qui était devenu, en l'espace de quelques semaines, la terreur des pilotes de chasse qui étaient engagés en Corée. Donc il fallait tout connaître, tout savoir de cet avion pour pouvoir mieux le combattre. Et juste au bureau d'à côté, donc de ce fameux Repal qui étudiait les avions russes, il y avait les officiers qui s'occupaient des ovnis, enfin des disques volants. Ça l'intéressait. C'est peut-être les Russes. Et puis finalement, il a hérité du bébé. On lui a dit, vous voulez vous occuper des ovnis? Mais écoutez, comment non, allez-y. Avec votre qualité, votre qualification, pas de problème. C'est lui qui va récupérer le bébé. Dès 1951, jusqu'en 1953. Grâce à lui, on saura beaucoup de choses. C'était un officier qui était véritablement ouvert et qui voulait savoir. Il savait que l'état-major, il y avait quelque chose de parallèle. Lui, on lui avait donné un peu le service de relations publiques du projet Blue Book, des études des ovnis, mais il savait qu'il y avait autre chose qui était fait derrière lui. Il n'était pas empiétaire de toutes les informations. Les gens, il y avait tous les témoignages des civils qui lui parvenaient, mais il y avait aussi un petit nombre de témoignages de militaires qui lui parvenaient pas. Et ça, il le savait, parce que il y avait des commandants d'unité qui l'ont fait venir et qui lui apprendront, entre autres, que des pilotes de chasse auraient tiré sur des ovnis. C'est-à-dire auraient fait usage de leurs armes de bord depuis leurs intercepteurs.
On en trouve certains témoignages dans les exemplaires de la VSD hors série. On revient sur ce déferlement sur Washington.
On y vient. Repalt, un jour, comprenait pas parce qu'il voyait. Parce que tout le monde s'apercevait de cette montée en puissance. Et un jour, il discute avec un conseiller, on suppose que c'était Hynek, le fameux conseiller scientifique de l'US Air Force, qui lui passait son temps qu'à démonter tous les cas d'OVNI, en disant non, c'est des ballons-sondes, c'est ceci, c'est cela, bon, bref. Puis ils discutent à bâton rompu, et il dit, mais enfin, ça rime à quoi toute cette montée en puissance? On survole nos bases, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se sépare. Alors maintenant, ça va se dérouler où? C'est plus au Nouveau-Mexique. Et le gars lui dit calmement, non, ce sera New York ou Washington, parce que nous n'avons pas affaire à un phénomène sorti comme ça d'un chapeau claque. C'est un phénomène intelligent. C'est manifestement une gesticulation militaire. Et les types qui sont derrière ça vont faire une montée en puissance. Et la prochaine étape, vous y trompez pas, c'est la capitale.
C'est la démonstration de force.
Oui, absolument. Alors, bon, c'est vrai que maintenant, avec le recul, avec les documents, on est quasiment persuadé que tout était lié avec la situation du moment, la guerre froide, mais aussi l'équilibre de la terreur, mais aussi cette mise au point de l'arme diabolique qui était la bombe à hydrogène. Ça, je crois que c'est sous-jacent, on le ressent au travers des rapports, même si, bien sûr, on ne nomme pas, un chat un chat, mais je crois que c'était fondamental, c'était bien évidemment la raison de cette montée en puissance. Alors, après, on a tout débunké, ça allait trop loin. Truman disait, c'est pas possible, on ne peut pas avoir deux week-ends de suite où Washington a été survolé. Bon, et ça, on en parle, j'irai dans le dernier hors-série VSD.
Alors, il y a des images de ça, il y a des photos.
Il y a des photos des radars, il y a des photos absolument, des images, bon, supposées des ovnis, mais bon, là encore, pour authentifier des images de la sorte. Mais par contre, on a des témoignages édifiants des pilotes de l'époque, et surtout les coupures de presse.
Mais comment se fait-il, Bernard, qu'après un événement comme celui-là, je veux dire le survol de la capitale 2 semaines de suite, par une armada, comment se fait-il que le monde entier, comment se fait-il que moi, quand je suis né, on ne m'ait pas dit qu'il y a des gens qui vivent là-haut? Comment après un coup de force comme celui-là, ça ne rentre pas dans la pensée collective?
Tout simplement parce qu'on ne savait pas qui pilotait ces engins, et on ne sait toujours pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a, les Américains avaient affaire à un ennemi, entre guillemets, invisible. C'est-à-dire, ils étaient face à une confrontation, d'abord dont ils ne connaissaient même pas les règles du jeu. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Par contre, l'adversaire, lui, savait. Enfin, l'adversaire potentiel supposé. Mais enfin, à partir du moment où on a quelqu'un qui se balade, qui fait fi des zones de survol, qui survole les sites les plus sensibles, les plus stratégiques, qui mettent donc à défaut la sécurité nationale d'un pays, qui font ce qu'ils veulent, qui échappent à tous les intercepteurs, à tous les chasseurs, donc qui échappent à tout contrôle.
Mais ça aurait dû devenir un fait établi, je veux dire.
Non.
On aurait dû dire les extraterrestres ou les ovnis ou les gens qui volent dans ces drôles d'engins sont là, ils ne sont pas connus et ça aurait dû devenir un fait international, un fait prouvé. On les a vus, comment se fait-il qu'après une vague comme celle-là, on n'ait pas tous cette croyance ancrée au fond de nous-mêmes? Quelle a été la manière dont ils ont décrédibilisé ces faits, ce qu'ont vu des milliers, des millions de gens au-dessus de Washington 2 semaines de suite?
Eh bien, on parle pas d'extraterrestres, on n'a jamais parlé d'extraterrestres. Parce qu'on ne savait pas qui c'était. C'est ça le problème. On ne sait pas qui c'était. Alors comment ils ont expliqué ça? Eh bien, ils ont évacué ça de la manière. Ils n'y croyaient pas. Ruppelt a dit le général Samford, qui était le chef des services de renseignement, dit c'est pas possible, on ne peut plus rester comme ça. Truman demandait des explications. Pourquoi? D'abord, incapacité des chasseurs de rattraper ces engins-là. Et au contraire, c'était même tout le contraire qui se déroulait. C'est-à-dire que les chasseurs étaient pris en chasse. Donc ça veut dire que si les gars avaient voulu les abattre, aucun problème.
C'était tranquille.
C'était tranquille. C'était vraiment les doigts dans le nez. Donc là, il y avait une démonstration de force. On vous montre ce qu'on sait faire. Maintenant, à vous un petit peu. On était vraiment dans le jour où la Terre s'arrêta, c'est clair. Je veux dire, et ça c'est vrai. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de. Alors on savait pas qui c'était. Et puis le général Samford. Et on va faire une conférence de presse alors que tout le monde se pose des questions, qu'on est en plein dans la guerre de Corée. Il faut bien admettre que cet événement-là a fait la une de tous les journaux américains et que bon, ça fait une petite ligne dans la presse française. Mais la guerre de Corée était complètement occultée. Alors qu'il y avait des tas de types qui se faisaient tuer en Corée, cet événement était passé au-dessus de tout.
Mais c'est plus qu'un événement, c'est carrément le fait de découvrir pour des milliards de personnes qui vivent sur la même planète qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, qui ne viennent pas d'un pays qu'ils connaissent. Ils sont incapables de dire d'où ça vient, et là c'est carrément un changement de culture. Là on peut parler du fait de briser les mentalités, d'exploser les connaissances. Là, on ne croit plus en rien. On ne croit plus en rien parce que les dieux n'existent plus rien n'existe. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, qui ont une force qu'on ne connaît pas et qui se permettent de nous survoler. Là, c'est carrément, mais c'est un changement de civilisation. Comment se fait-il que ça ne soit pas arrivé?
D'abord, ce qui s'est passé, c'est que les militaires se sont aperçus également que ça leur échappait totalement, que les politiques, Truman en premier, mais enfin, attendez, la Maison Blanche qui se fait survoler par des objets volants non identifiés de nuit, vous êtes incapable de les chasser, mais qu'est-ce qui peut se passer après? Quelle est la suite? Et la suite, il n'y en aura pas. Ce qui est terrible, c'est que cette montée en puissance s'arrête d'un seul coup. Alors, l'état-major dit, on va expliquer quelque chose au public. Et alors là, grand coup de bluff. Nous voilà, on ne sait pas. Alors, la langue de bois totale.
Phénomène météorologique,
ça peut être ça. Et puis là, la presse s'empare de la de l'expliquer. Ils n'avaient rien compris au discours. Je ne sais même pas si le général lui-même avait compris son discours. Hein, c'était une langue de bois totale. Il n'y avait rien de consistant. Il ne savait même pas ce qu'il devait dire. Alors, il tournait autour du pot. Il disait, ben voilà. Alors, quand on lui parlait des observations du pilote, du bon, où c'est le pilote, hein, il voit, il vole, il vient. Il noyait le poisson. Il n'y avait pas d'autre solution. Il dit, bah, écoutez, j'ai une explication. Les inversions de température. C'est peut-être ça. C'est-à-dire, en fait, des éco-radars parasites qui apparaîtraient comme ça, puis qui disparaîtraient par l'inspiration du Saint-Esprit.
Alors, rappelons quand même que ça, c'est 1952. Oui. Et tu me disais tout à l'heure que 1953, c'est la vraie, on va dire, la création de plusieurs groupes qui commencent à dire, il y en a marre, on a vraiment l'impression qu'on ne nous dit pas strictement tout ce qu'on devrait savoir sur ce sujet. La preuve en est que là, les explications ne sont pas les bonnes, qu'il y a un avion qui s'est scratché, on ne sait toujours pas pourquoi. Il est possible qu'on nous cache deux, trois choses. J'aimerais juste avant que tu nous parles de ça et de ces groupes qui se forment, un peu contestataires, on va dire, répondre à une question d'Enel qui est sur le chatroom d'ici et maintenant dans l'invité du jour. Une question à l'invité, est-ce que de nos jours, des pilotes voient encore ces ovnis? Je voudrais rassurer Enel tout de suite. J'en ai interviewé deux hier soir. Deux de ces pilotes que j'ai enregistrés et que nous diffuserons un petit peu plus tard dans la soirée. Deux pilotes, dont un qui n'a d'ailleurs pas pu intervenir ce soir car il est lui-même aux commandes d'un avion cette nuit. Donc tout ça pour te dire qu'on peut témoigner sur ce sujet et rester crédible aux yeux de ses employeurs. Donc voilà pour ta question, Enel. Alors 1953, émergence de pensée, non plus la pensée unique, non pas le désintérêt. Là, on commence à rentrer dans le gros questionnement.
Bah surtout que les vagues d'observation atteignent l'Australie, la Nouvelle-Zélande, un peu partout, quoi. Je dirais que ça fait partie un petit peu des préoccupations de tous les états-majors, mais pas uniquement de l'Amérique, hein. Il y a aussi le nord de la Russie, encore la Scandinavie. Et puis alors, on commence à faire des réglementations. C'est ça qui est intéressant. C'est à partir de cet instant-là, on dit, on va faire des règlements, on va... Donc, il y a des règlements, on va pas vous mettre les détails, mais enfin, on commence à faire des règlements qui justement, déterminent la conduite à tenir pour les pilotes, pour faire leurs rapports, pour... et ça devient vraiment...
Ça devient strict.
Oui, ça devient strict, et là, c'est à partir de cet instant-là, que la chape de plomb va se refermer sur l'information.
Alors, juste un instant, une parenthèse. Moi, Bernard Toinel, j'arrive sur Radio Ici et Maintenant. Je t'entends parler d'une vague d'objets non identifiés, semble-t-il, la météo un peu capricieuse qui passe au-dessus de Washington, deux semaines de suite. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Où est-ce que je peux trouver des textes, des comptes rendus du discours, des photos? Où est-ce que je peux trouver quelque chose qui corrobore ce que tu viens de nous dire?
Bah, déjà, en lisant VSD hors série, qui est encore en vente en kiosque, bon là, on peut effectivement avoir une vue totalement objective qui a été... On a un article, alors moi, j'ai décidé justement pour ce numéro d'utiliser vraiment les compétences des gens et je me suis adressé à un journaliste américain du Washington Post pour justement avoir un petit peu sa vision des choses 50 ans après. 52, c'est quoi? C'est il y a 50 ans.
Il y a 50 ans et on reviendra un peu plus tard dans la nuit sur ce qui a pu arriver il y a quelques mois.
Parce que en plus, aujourd'hui, c'est une date anniversaire. Ben, on n'est plus le 5 novembre, mais tout à l'heure, on y était. Mm. Et on y reviendra, le 5 novembre 1990, c'est passé aussi des choses sur la France.
On y reviendra sans aucun problème, Bernard. Alors moi, je continue, moi je suis un auditeur buté. J'aimerais avoir sous mes doigts, j'ai Internet devant moi, et j'aimerais avoir sous mes doigts le discours, une partie du discours, des articles de journaux de l'époque qui relatent les faits, ou une photo. Je peux aller sur un site Internet qui me permettrait de trouver ça?
Alors, il existe des rapports officiels, donc ces rapports officiels sont situés aux Archives nationales de Washington, sous forme de microfilm. C'est en fait l'intégralité du projet Blue Book de 47, donc ça a duré 22 ans. Donc on a à peu près l'équivalent de 180 000 pages, donc ça fait un paquet de pages, à visionner, et qui couvre les années dont on a parlé, 47-52, mais c'est qui vont jusqu'en 1969.
Ou sinon, je cherche les journaux, je vais sur les journaux de Washington et je vais dans leurs archives.
Oui, là, de toute façon, en ce qui concerne Washington...
Washington Post en parlait.
Washington Post en a parlé, il en a parlé encore récemment, puisqu'il s'est passé quelque chose, mais là, on va y revenir un petit peu plus tard.
On y reviendra plus tard,
Et ça, c'est quand même assez drôle.
Donc, on est en 1953. Ouais. Que se passe-t-il dans le monde ?
Eh bien, dans le monde, on assiste, à l'apparition de trafic aérien, je dirais pratiquement d'OVNI, au-dessus de la Russie, de la Scandinavie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, ce que je disais. Hein, et puis, l'émergence, surtout, de règlements. Hein, de règlements pour les pilotes militaires, mais aussi pour les pilotes civils. C'est nouveau. Parce que jusqu'à présent, ils parlaient. Et là, on leur dit, vous la bouclez. Vous la bouclez parce que c'est tout, c'est un ordre. Sécurité nationale, terminée. Sinon, en tôle. En gros, c'est ça. Alors, il y a de quoi, effectivement, laisser réfléchir les pilotes. Il y en aura quand même qui s'exprimeront, heureusement. Mais il y en aura beaucoup qui ne s'exprimeront pas. Et c'est là où ça commence. Donc, on commence à avoir peur du sujet. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à ridiculiser le problème. C'est 52 le tournant. On dit maintenant, c'est fini, on arrête de jouer. La CIA a pris le taureau par les cornes et dit maintenant, à l'issue d'une commission d'ailleurs qui était dirigée par Dr. Robertson, fameuse commission Robertson, on dit maintenant, fini de jouer, maintenant tout le monde la boucle. Sur cette affaire-là, tout le monde la boucle. C'est dans l'intérêt de chacun, surtout dans l'intérêt de la sécurité nationale américaine.
Bon, alors toi, je rappelle que tu es rédacteur en chef de Westdor Série, consacré notamment à ces phénomènes d'objets volants non identifiés. Comment est-ce que tu as trouvé ces informations ? Quelle démarche as-tu fait en tant qu'enquêteur pour tomber sur ce genre d'informations ? Et t'as-t-on mis des bâtons dans les roues ?
Pas du tout. Jamais. Jamais. C'est ça qui est étonnant, c'est que... La conspiration, moi j'en ai toujours entendu parler, j'en ai jamais souffert. Bon, alors peut-être que j'ai une chance terrible, peut-être que je me suis bien pris. Parce que bon, effectivement, il faut pas aussi, il faut savoir ne pas provoquer quelque part. Bon, je rappelle que j'ai enquêté en France, mais que j'ai enquêté aussi à l'étranger, et notamment aux États-Unis. Que j'ai récupéré des documents qui sont parfaitement accessibles à tout le monde. Alors, c'est pas moi, parce que je m'appelle Bernard Tronel, que je suis rédacteur en chef. Non, pas du tout. Ces documents sont... Donc, suffit. Bon, effectivement, oui, il faut voyager. Ah, ça, d'accord. Il faut payer les démarches administratives. C'est vrai que c'est un obstacle majeur pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. En revanche, celui qui veut savoir, il peut savoir. Donc, il n'y a pas d'interdit. Donc, après 53, c'est ce qu'on appelle le debunking total. Et là, on dissuade tout le monde de parler. Et on végétera comme ça jusqu'en 69. En gros, c'est ce qui va se passer. Malheureusement, on avait toujours des témoignages. C'est ça qui est extraordinaire. On avait des témoignages, Le problème, c'était de voir ces témoignages. Il y avait un chef scout brûlé qui avait observé un disque volant dans une forêt en Floride en 52, septembre 52.
Est-ce qu'on tombe pas, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'on tombe pas dans le fantasme populaire, dans l'envie de voir quelque chose ?
Je veux certainement de ça. Il y avait aussi surtout
Il y a des films qui sont sortis. Oui. Il y a quand même, oui. C'est aussi l'époque où tous les films, un petit peu plus tard, même où tous les films sont sortis. On parlait tout à l'heure de La planète interdite. Le jour où le monde s'arrêta.
Le jour où la Terre s'arrêta.
Le jour où la Terre s'arrêta, pardon. Ce fameux engin qui descend sur Washington.
Tout à fait.
Avec un bonhomme qu'en sort, et puis il tire sur le bonhomme sans faire exprès, et puis que se passe-t-il ? Un robot arrive. Là, on commence à entrer dans la
Pulp Fiction.
On est en plein dedans. Alors, est-ce que les gens n'ont pas eu envie de voir et surtout de dire, j'ai vu ?
Disons que ce qui est assez bizarre dans cette histoire-là, c'est que le film en question est sorti en 1951. C'est un film qui a été fait par Robert Wise Et donc c'était un an avant les événements. Donc on aurait pu croire effectivement que ça aurait pu être... C'est vrai que c'était un peu... La science-fiction avait un peu devancé la réalité. Seulement, le problème, c'est que ce n'était pas les habitants de Washington seulement, c'était les contrôleurs aériens, c'était les pilotes de chasse, c'était les radaristes. Et là, il y avait des traces. Donc c'était pas du tout une folie qui avait été gagnée par simplement la diffusion d'un film de science-fiction. C'était la science-fiction qui avait simplement devancé la réalité. C'est ça qui était marrant. Alors, peut-être qu'on avait répondu au message de ce film, et puis on avait fait en sorte que ça se passe. Ça, c'est possible aussi. Et il y a eu la chose d'un autre monde aussi, en 1951. C'est vrai qu'il y a eu cette émergence de films. Il y avait la Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, elle date de 51-53. Parce que le film, je crois, a été réalisé pendant 2 ans, de Byron Askin. Il y a eu... alors, c'est vrai que la science-fiction suivait plutôt les événements, ou devançait simplement les événements, mais on avait vraiment, pendant les années 50, moi j'ai aussi un film que je mets en avant, parce que c'est un film bizarre, parce que vraiment, il est extraordinaire. C'est le film s'intitule « The Silent Earth ». Et je crois qu'il est sorti sous le titre « Les survivants de l'infini ». C'est un film de 1955 et il est fabuleux parce qu'on voit véritablement... Vous parliez d'humides la semaine dernière, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on a les humides dans une maison avec grand art, grand luxe. C'est extraordinaire, fabuleux.
Alors, on entend dire parfois que ces scénaristes de Hollywood... Attention, ce sont des on-dit, hein. Ces scénaristes de Hollywood seraient un petit peu aidés dans l'écriture par, pourquoi pas, des grosses têtes, des personnes qui connaissent les sujets, histoire de donner de quoi rêver, de quoi fantasmer à la population, pour ainsi être plus tranquille dans ce qui est le plus important dans leur recherche. Alors est-ce que ça te paraît fondé quand, je veux dire, on donne à manger aux gens des histoires d'extraterrestres avec des bonhommes verts, ou c'est l'époque où on a vu qu'on a émergé les gros robots ou les bonhommes verts, ou les... on leur donne à manger ça pour pouvoir se permettre de travailler tranquillement sur des projets un petit peu plus sérieux et beaucoup moins sulfureux comme l'étude d'un vaisseau ou autre.
Moi je pencherais plutôt à une préparation psychologique. Parce
ça fait longtemps que je veux dire.
Je crois que effectivement le cinéma et principalement les films de fiction sont souvent des médias, des supports extraordinaires pour véhiculer des messages. Hein, ça peut être de la propagande, mais ça peut être également, je dirais, une pédagogie quelque part. Donc, on ne peut pas non plus exclure que les films de science-fiction ne soient pas un peu le reflet de cette volonté de communiquer. Parce que, en fait, finalement, le gouvernement américain et les militaires étaient incapables et parfaitement incapables de communiquer. Donc, le meilleur moyen de communiquer vis-à-vis du public, c'était encore penser des films de science-fiction. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'ils étaient, ils l'ont fait de manière flagrante. Maintenant, est-ce que c'était pas un mauvais message effectivement de dire que ces gars-là, parce que c'est vrai que on est vraiment dans une science-fiction qui ramène les ovnis à des êtres hostiles qui font usage de leurs armes laser et autres qui désintègrent tout le monde. Dans la réalité, fort heureusement, on l'a vu, c'était pas le cas.
Espérons.
Oui, faisons-le. C'est vrai que... Et alors, bon, les années passent et en fait...
Les années passent et s'oublie ton micro ?
Oui, j'oublie mon micro, ouais, tout à fait, parce que c'est vrai que les années passent et puis on arrive en 60, 65, 66, puis l'armée de l'air américaine, c'est marrant parce que quand je regarde le chat là, on est entouré de comploteurs. C'est fabuleux de voir ça. Je comprends pas. Je comprends pas vraiment qu'on puisse réagir comme ça parce que c'est de l'humour, mais il y a quand même, on s'en aperçoit, un rejet de certaines personnes de phénomènes qui peuvent être. On n'a pas pour l'instant parlé d'extraterrestres.
À aucun moment.
C'est toi qui m'en as parlé. Moi, j'en ai pas parlé.
Je t'en ai parlé parce que moi, j'essaye d'expliquer. J'ai fait moins de recherches que toi, mais je me dis, si on ne connaît pas l'origine des vaisseaux, si on ne sait pas d'où ils viennent, si on ne connaît pas leur force, et s'ils ont de toute évidence une technologie supérieure aux nôtres, à la nôtre, je les vois mal passer toute leur vie sur Terre tranquillement et puis apparaître de temps en temps sans qu'on les ait repérés jusqu'ici. Alors je me dis, bon, bah, extraterrestre, c'est assez vague, mais ce sont peut-être.
C'est peut-être la solution de facilité, parce que. Oui. Pourquoi que. Parce que. Il y a quand même une chose, moi, qui me. Au terme de ces années d'enquête. Parce que. Qu'est-ce qui. On a parlé des années 40, des années 50. Et qu'est-ce qui va se passer après? L'armée américaine va en avoir marre d'avoir ce bébé sur les épaules. Parce qu'il ne faut pas oublier que les types qui s'occupaient du projet Blue Book, jusqu'en 66, ça, ils en avaient marre. Ils n'arrêtaient pas. Il y a eu une recrudescence. Il y avait une recrudescence en 1965 avec cette fameuse vague de grève électrique, de panne électrique. Il expliquait tout le nord-est des États-Unis. Ça devenait la folie. Les gens voyaient des ovnis partout. Il y en avait qui se posaient. On commençait à parler d'abduction, d'enlèvement. Alors là, c'était vraiment de la parano. Hein. On était vraiment. Et ces coups de téléphone incessants qui parvenaient à l'US Air Force en disant mais expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites? Comment vous nous protégez? Ils n'étaient pas fichus de répondre, les pauvres. Ils en avaient marre. Et la réponse de la conspiration, il n'y avait pas plus de conspiration. Je vous laisse débarrasser du sujet. Parce que c'était intenable, ils avaient autre chose à foutre. Ils ont dépensé des. Combien de. Plutôt. Presque. Je crois qu'ils ont dépensé des centaines de millions de dollars. Pour rien, en fait, pratiquement. Ils ont collationné les dossiers, ils pouvaient rien en faire. C'est ça le problème. Et ils pouvaient rien en faire. Les scientifiques ne voulaient pas du bébé, les militaires ne voulaient pas du bébé, il fallait clore le dossier. Ou l'étudier dans la discrétion. On n'était pas capable de reproduire les soucoupes volantes, on n'était pas capable de les faire voler, on n'était pas capable de faire la même chose. Alors, il fallait arrêter les dégâts. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, dès 1966, le problème nucléaire revient. Et là, pleine guerre du Vietnam, toujours contre les Russes. Et on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout ce que je peux te dire, c'est que tous les sites de missiles intercontinentaux étaient survolés, mais que certains ovnis, et le cas le plus flagrant, c'est celui d'octobre 1968, où là, il y a eu un atterrissage en plein site de missiles intercontinentaux. Et ce fait a été la goutte qui a fait déborder le vase et qui a fait précipiter la décision de l'US Air Force de dire, écoutez, il n'y a pas de problème. Le problème des soucoupes volantes, c'est un problème qui n'est pas, qui ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale. C'est un mensonge total. Ils savaient pertinemment. Seulement, c'était la meilleure façon d'évacuer le problème. On ne pouvait pas faire autrement que d'évacuer ce problème-là. On ne pouvait pas l'expliquer, on ne pouvait pas le combattre, on ne pouvait pas. Donc, on n'allait pas avouer au public, mais. Écoutez, on ne peut rien contrôler, on peut pas les intercepter. Vous nous payez des milliards de dollars pour avoir la meilleure des défenses aériennes, les meilleurs radars, le NORAD, ce complexe militaire industriel était incapable. Alors, on a évacué le problème.
Alors, ce vaisseau qui se pose en 1968,
oui.
On y revient dans un instant, on fait une respiration.
Merci.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, Bernard Toinel est notre invité ce soir. On fait une respiration musicale et n'oubliez pas que vous pouvez faire écouter cette émission sur ici-et-maintenant.com à tous ceux qui sont au-delà d'un rayon d'une centaine de kilomètres de Paris. Vous mettez sur ici-et-maintenant.com et vous l'avez en direct et vous pouvez aussi participer uniquement sur le chat actuellement, le standard va être bientôt ouvert. Participez au chatroom d'ici et maintenant, ici-et-maintenant.com, dans le chat et vous allez dans l'invité du jour. Radio Ici et Maintenant 95.2, vous aurez reconnu la musique de Rencontre du troisième type, John Williams, et le standard est ouvert, ça y est, il est ouvert, il n'est pas vert, il est juste ouvert, 01 45 75 44 44, ou 01 45 75 45 deux fois. Vous écoutez cette émission depuis 23h20, Bernard Toinel est avec nous, Bernard Toinel qui donc est le rédacteur en chef de VSD hors série, et qui nous parle de quoi? Des ovnis. Il a mené de très longues recherches sur ce phénomène, et suite à certains témoignages de pilotes, de personnes qu'il estime dignes de foi, qui ont fait des rapports, qui avaient des chefs, qui eux-mêmes ont fait des rapports de radar, de visuel. Et donc Bernard Toinel s'est attardé sur ce sujet depuis 1995, c'est bien ça Bernard?
Oui, tout à fait. Je me suis intéressé un petit peu par la force des choses, parce que j'ai été balancé dans cette histoire de Roswell de 1995 avec fameuse affaire Pradel de l'édifice de l'Estrange. On avait publié les premières photos d'un extraterrestre, je dis bien entre guillemets, et puis donc la décision de lancer le hors-série VSD en septembre 1996, dans le cadre d'un hors-série, parce que bon, effectivement, l'hebdomadaire n'était plus du tout le vecteur idéal. Donc on a créé un petit peu notre magazine, il a fallu faire beaucoup de travail. Et je dirais que quelque part, on a fait un travail de recherche qui nous a conduit, et qui m'a conduit, mais à travers le monde. Quand je dis à travers le monde, aux États-Unis, en Amérique du Sud, et ça continue. Et c'est extraordinaire parce que depuis, on a parlé des années 40, des années 50, des années 60 un petit peu, on va y revenir un petit peu rapidement, et ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose.
Alors donc on va revenir à l'année 68, histoire de la clôturer, et de finalement on va faire un grand saut dans le temps. On s'est beaucoup attardé de 1947 jusqu'à 1968, et après vous allez voir c'est encore plus rapide. Bon, on s'est beaucoup attardé sur cette genèse, Bernard Toinel y tenait, parce que pour lui c'est l'explication, enfin c'est le début, en tout cas le départ. Je vous rappelle que si vous souhaitez lui poser vos questions, les deux numéros de téléphone sont à présent libres. De quelle manière a-t-il trouvé tous ces documents? Comment a-t-il fait? Toutes les questions, vous pouvez vous poser à ce sujet, 01 45 75 44 44 ou 01 45 75 45 45. Alors Bernard Toinel, 1968, juste avant cette pause musicale, histoire de finir avec ça, vous me dites qu'un appareil s'est posé?
C'est-à-dire que, bon, il faut remettre ça dans leur contexte. Donc, 65, on a, à partir de, surtout du 9 novembre, une gigantesque panne d'électricité. Et ensuite, on a la création, à l'instigation de Gerald Ford, de la commission Condon. Commission Condon, c'était le professeur, donc, Condon, était Edward Condon, pour être Edward Uller Condon, c'est un ancien également du projet Manhattan. Hein, on retrouve toujours nos chers physiciens nucléaires, toujours dans l'histoire des ovnis. Alors, on crée ce comité d'investigation du Congrès, et on l'affuble du titre, je dirais, de groupe d'études universitaire, l'Université du Colorado. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 3 ans? Eh bien, ils vont analyser tous les rapports. C'est extraordinaire, tous les rapports Blue Book qui étaient officiels, c'était tout sauf des soucoupes volantes, c'était avions inconnus, avions non conventionnels, ballons expliqués, phénomènes météorologiques. Enfin, on avait l'impression qu'on cherchait tout un tas d'explications. Et donc cette commission étudiait également les rapports qui lui parvenaient, les rapports récents, et puis en 67-68, on avait des survols de plus en plus répétés de sites de missiles intercontinentaux, et en octobre 68, alors là c'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est l'atterrissage en plein milieu d'un site de missiles nucléaires, sur la base de Minot, qui est dans le Dakota du Nord, et là, ça fout une panique terrible. Un bombardier B-52 en vol à ce moment-là est pris à partie par un ovni qui s'oppose donc en plein milieu d'un site, mais alors inaccessible, hein, on envoie des commandos, les commandos, on n'a plus de nouvelles, on va aller les chercher, on ne sait pas ce qui s'est passé, on envoie donc un deuxième commando, et le deuxième commando retrouve leur collègue complètement dans les vapes, avec le site, la porte ouverte, et le site de maintenance, en fait, tout au moins la porte qui fait 20 tonnes, hein, qui protège le missile, ouverte. En d'autres termes, les types qui sont allés, ben, ils ont ouvert, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et ils sont repartis. Et il y a eu des traces de radioactivité, non pas qui émanaient du missile en lui-même, mais visiblement de l'engin. Enfin, tout au moins du supposé engin, qui avait été observé par l'équipage du bombardier. Tous ces gens, aujourd'hui, ont parlé. On les a retrouvés. Ils étaient tous retirés dans le fin fond des États-Unis. On les a tous retrouvés hein, avec des amis américains et chercheurs américains qui les ont vraiment coursés. Et je trouve que c'est fabuleux.
On va accueillir le premier auditeur, comme ça.
D'accord.
C'est Billy. Billy, bonjour. Billy. Billy.
Ouais, j'arrive.
Ouais. Allô, bonsoir. Fais pas tomber ton téléphone.
Non, non, ça
Vas-y,
va.
T'es à l'antenne.
Parce que je t'occupe avec des Russes, là, des pilotes, en plus. Allô.
Ouais, vas-y, Bernard, t'écoute.
Voilà, donc j'aurais voulu savoir si est-ce que des événements semblables ont été recensés en France, parce que dernièrement j'ai vu une émission, donc c'était je crois LCI ou TF1, où ils accueillaient un pilote Air France qui avait vu lui aussi. Ok, il y a. C'est pas si, voilà.
Okay.
Excusez-moi, je m'occupe de personne. Donc où lui-même avait été témoin d'OVNI et tout, était pilote, et bon, il a attendu la retraite pour pouvoir en parler, effectivement, parce qu'il avait suivi. Il avait eu un, comment dirais-je, un petit. Pression de la part des supérieurs pour pas en parler quoi. Donc j'aurais voulu savoir si en France il y a beaucoup de cas comme ça qui ont été recensés, en plus comme on est une puissance nucléaire, effectivement si les ovnis sont là à surveiller un petit peu tout ce qui pourrait être dangereux pour peut-être même leur survie à eux, hein, si effectivement ce ne sont pas des extraterrestres mais des entités qui vivraient sur la Terre mais un petit peu cachées, camouflées, je ne sais pas. Donc ça c'est ma première question.
On va répondre à ta première question.
On va répondre. D'abord, bonsoir. Hein,
bonsoir.
Et puis, je pense qu'on va répondre à ta question, disons, par le témoignage direct hein, d'un commandant de bord,
ouais.
Qui est récent. C'est un peu la date anniversaire. Enfin bon, là, on l'a dépassé, on est le 6 novembre. Uh-huh. Et ce qui s'est passé, ce que tu vas entendre,
oui.
C'est pas la peine de t'expliquer tout. Tu vas entendre le témoignage de ce commandant de bord d'Air France. Alors, il s'appelle Christian Loiseau.
Ouais.
C'est pas une farce, c'est son nom.
Ouais, ouais.
Et il était à l'époque commandant de bord sur Boeing 727 à Air France. Uh-huh. Il était au-dessus de Gaillac. Et il va expliquer ce qu'il a vécu.
Gaillac, c'est-à-dire où ?
Dans le sud-ouest de la France.
Ok, très bien.
Il revenait, je crois, de l'Espagne. Et il va raconter ce qu'il a vécu le 5 novembre 1990.
Alors justement, Monsieur Loiseau, eh bien, je l'ai enregistré hier soir et j'ai fait son interview. Ça tombe bien que t'en parles. On va la diffuser dans quelques instants parce qu'il y a encore quelqu'un en attente. Je voudrais pas le faire attendre.
Nous avons Pierre avec nous. Pierre.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Voilà. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir Monsieur le journaliste.
Bonsoir.
J'ai deux questions à vous poser.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il serait possible que le projet anti-missile qu'ont mis en route les États-Unis serait lié au besoin d'intercepter ou d'essayer de se protéger contre ce type d'événement ?
Question intéressante.
Et est-ce que, à part ça, en annexe de cette question, est-ce que les autres industries d'armement mondiales, européennes, chinoises, russes, s'occupent de ce genre de questions, savoir comment ils pourraient éventuellement intercepter ces choses-là ou autre ? Une autre question, lorsque, par exemple, la France a développé son arme nucléaire, et d'autres pays qui les ont développés récemment, est-ce qu'on a constaté, par exemple en Algérie, ou au-dessus de la Polynésie, des ovnis ? Et autre question, est-ce qu'on en a constaté au-dessus de sites où il y a nos sous-marins, où il y avait nos missiles, le plateau de machin, là, d'Albion, où il y avait des missiles, où il n'y en a plus ? Est-ce qu'on en a constaté dans ces zones-là ?
Très bien, Pierre, c'est assez vaste. On va laisser ouais. Bernard Toinelli répondre.
Merci.
Eh bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions de nos auditeurs, là, pour l'instant, parce qu'on a vraiment et les documents et les témoignages, et puis on a effectivement la possibilité de répondre vraiment de manière officielle. On va. D'abord, pour répondre à ta question, est-ce que les sites français ont été survolés ? Oui.
D'accord.
Alors ça, c'est clair, oui, absolument. Et justement, le témoignage qu'on va passer du commandant Loiseau de donc.
Au-dessus de Bordeaux, j'y pensais, mais il y a pas mal de casernes de camps de l'armée de l'air là-bas.
Oui, il y a la base de Mont-de-Marsan qui est pas très loin, c'est vrai. Ouais, il y a le centre
Mérignac.
Il y a Bordeaux-Mérignac, Dassault. Il y a mais de toute façon.
Il y a Toulouse, pas loin, donc il y a des sites qui peuvent être.
Absolument. Je connais bien.
Je suis pas là pour dire que j'apporte caution. Enfin, je ne doute pas de votre sincérité, de votre démarche et de votre honnêteté intellectuelle. Maintenant, j'en sais rien personnellement. Mmh. La question est posée. Ça, c'est intéressant d'y réfléchir. Quoi.
Non, mais moi, de toute façon, on est bien d'accord. Moi, je n'ai pas de cause à défendre. Hein. Je fais simplement mon métier de journaliste. Je dirais que les conclusions, tout ce que j'ai expliqué, c'est pas mon opinion. C'est ce qui ressort des documents.
Mais moi, je sais que je suis devenu plus en plus ouvert. Avant, j'étais plutôt fermé à ce genre de trucs. C'est des gens un peu qui droguent ou qui boivent. Mais j'y portais pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, j'avoue que c'est des questions qui m'intéressent quand même. Pour opinions définies.
C'est exactement mon cheminement intellectuel. Au départ, j'étais très sceptique, mais on est sceptique quand on ne connaît pas.
Oui.
Quand on n'a pas étudié les documents. Or, les rapports sont édifiants. C'est ça le problème.
Mais vu sous l'aspect géopolitique, c'est-à-dire qu'ils ne survolent pas, ils survolent pas le Moulin Rouge à Pigalle, ils survolent des sites militaires, des sites stratégiques. Donc des gens qui pourraient être éventuellement des intermédiaires ou des choses qui pourraient être des intermédiaires puisqu'ils ont une compréhension de ce qu'on fait, donc ils l'analysent.
Ah, c'est même pas une compréhension, c'est une connaissance.
Une connaissance, oui.
C'est ça le problème. C'est bien ce qui dérange nos autorités, c'est qu'ils savent où se trouvent les choses sensibles.
Mais mis à part l'aspect éviter un moment de panique, est-ce qu'il serait pas mieux pour les autorités justement d'en faire une cause importante de façon à disposer du maximum des ressources auprès de techniciens, d'ingénieurs, civils, militaires, et de façon plus large, de créer des secteurs industriels, enfin un secteur d'études vraiment officiel, avec beaucoup de gens qui y travaillent. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure façon d'obtenir des résultats plus...
Bien, écoute, je crois que là encore, on va pouvoir répondre à cette question avec Alexandre. On va pouvoir répondre à cette question parce que les plus courageux d'entre vous qui vont rester le plus tard possible.
Ah, je suis bien parti là. Ouais.
Je crois que vous allez être récompensés parce qu'on va vous passer un document et là qui est vraiment qui va répondre à toutes les questions que vous posez parce que on a fait un document il y a quelques années. On a fait parler, on a réuni les autorités autour de la table et c'était mon directeur qui menait les débats et vous allez l'entendre ce document. Au sujet de tes questions, je pense qu'il faudra que tu écoutes un petit peu plus tardivement. On va passer un document, enfin j'espère, et qui répondra entièrement à tes questions et tu vas écouter ces gens qui ne parleront pas avec une langue de bois pour une fois.
Alors c'était au cours d'un repas, Bernard Toinel. Hein,
c'était un déjeuner débat.
C'était un déjeuner débat et vous avez discuté, ça a été enregistré et tu verras ça un petit peu plus tard.
Voilà.
D'accord. Bonne soirée à tout le monde.
Merci à toi aussi. En attendant, on va écouter ce que nous demandait Billy au tout début, donc Monsieur Loiseau. Hein,
commandant
Loiseau, bonsoir. Interviewé hier soir entre 19h et 20h car il ne pouvait pas répondre à nos questions ce soir.
Alors, Monsieur Loiseau, vous exerciez une activité, vous êtes à la retraite actuellement. Que faisiez-vous exactement?
Eh bien, j'étais pilote de ligne au sein de la compagnie Air France. Au moment des événements, j'étais donc commandant de bord sur Boeing 727.
Alors, au moment des événements, quels événements?
Alors, c'était sur un vol Paris-Barcelone. Si mes souvenirs sont exacts, c'était en 1990, je pense, au mois de novembre. Sur un vol de nuit qui partait donc aux environs de 19h de Paris pour Barcelone.
Donc un vol assez court.
Oui, tout à fait. C'est un vol moyen courrier, donc qui devait faire à peu près 1h20 de temps de vol.
Et alors, qu'avez-vous observé?
Eh bien, donc, nous étions au niveau de croisière, aux environs de 35 000 pieds. Dans la région, le centre de France, nous arrivions, je pense, à la verticale de la balise de Mende. À peu près au cap 180, c'est-à-dire cap sud, approximativement. Et de mon siège, en regardant dehors, il faisait déjà nuit, naturellement, j'ai aperçu, mais très loin, sur notre avant droit, un genre de demi-lune dont la base horizontale était la base inférieure était l'horizontale et une demi-lune. J'étais tout d'abord surpris parce que voir une lueur en pleine nuit, les nuages n'étaient plus éclairés, il n'y avait pas de lune, donc il s'agissait d'un événement tout à fait anormal. Et après quelques instants, en scrutant donc cette petite lueur, nous avons vu à la base inférieure droite un genre de filament qui apparaissait descendre. Là, on a été très intrigué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être de ça? Avec le copilote, donc notre mécanicien, nous avons observé le même phénomène sans pouvoir l'expliquer.
Ça ne ressemblait à rien de ce que vous aviez pu voir jusqu'ici?
Ah non, pas du tout, parce que c'était très lointain. Il était très difficile, naturellement, de fixer une distance. Et non, ça ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu voir jusque maintenant. Et alors, on en discutait calmement depuis quelques secondes. Et alors là, brutalement, en regardant sur la droite du cockpit, un petit peu au-dessus de nous, c'est là que j'ai vu cet étrange phénomène, donc lumineux, qui était sur notre avant, pratiquement notre travers droit. Là, j'ai alerté le copilote, naturellement. Notre mécanicien s'est penché pour regarder et nous étions tous les trois à observer ce phénomène qui était un phénomène tout à fait exceptionnel.
Et pourquoi était-il exceptionnel?
Parce que c'était, d'une part, par cette vision. Si vous voulez, ce phénomène, c'était une... Naturellement, il succédait à cet événement qu'on avait vu donc sur l'horizon. Mais cette figure géométrique qui était tout à fait exceptionnelle, elle ressemblait à un genre de parallélépipède. Et à chaque sommet, il y avait une lueur. C'est pas une lueur, en fait, c'était comme un phare de plusieurs couleurs différentes. Il y avait des verts, des jaunes, oranges. Et alors surtout, dans la partie centrale de cette figure, il y avait une autre lueur beaucoup plus intense, et une lueur blanche, mais très très puissante. Et alors on était tout à fait, très surpris. Et j'ai demandé aussitôt au contrôle s'ils avaient un objet sur le radar, pouvant nous identifier un objet éventuellement qui nous croisait. Et là, le contrôle nous a dit, non, absolument pas, je ne vois rien. Et dès que notre communication s'est arrêtée, d'autres avions qui étaient donc dans le ciel, dans la même région de France, même dans la région de Lyon d'ailleurs, dans le volume, si vous voulez, qui était couvert par la VHF, la radio, d'autres, en particulier des gens derrière terre, ont dit oui, nous on la voit également, il y a une énorme PC au milieu, c'est-à-dire une post-combustion. Moi je ne dirais pas jusque-là pour dire que c'était une post-combustion, mais effectivement, au centre de cette figure, il y avait une lueur très intense qui aurait pu être interprété comme la sortie d'une cuillère de réacteur.
Mais le déplacement de cet objet lumineux, on va dire, est-ce que ça ressemblait à une réaction classique, à une propulsion classique d'un engin que vous auriez pu connaître?
Oui, là, en ce qui concerne la vitesse, si vous voulez, alors, le déplacement paraissait un déplacement avec une vitesse apparente, régulière, très stable. Et ce qui était surprenant, c'est que les phares donc qui limitaient cet objet ou ce phénomène étaient des lumières qui étaient très fixes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de halo autour, il n'y avait pas de traînée, si vous voulez. Je reviendrai tout à l'heure parce que le rapport que j'avais reçu plus tard était un peu en contradiction avec ce que nous avons vu. Alors, en ce qui concerne la distance, il est très difficile, naturellement, de fixer une distance relative entre nous et cet objet, puisqu'on n'a aucune référence pour comparer, donc, et ainsi que la vitesse. Il est très difficile de pouvoir dire sur un objet dont on ne connaît pas ni la taille ni la distance, qui nous sépare d'elle, de dire à quelle vitesse cet engin se déplace, si engin est l'IA. C'est tout le problème de la vitesse relative. On voit un Jodel, on a l'impression qu'il va très vite, et on voit 747 derrière, on a l'impression qu'il se traîne, ce qui n'est pas du tout vrai. Et d'autre part, un satellite qui passe dans le ciel, met quelques minutes pour traverser le ciel, on a l'impression qu'il ne va pas vite, mais bon, il est à 25 ou 30 000 km à l'heure.
Vous me parliez d'un rapport il y a quelques secondes. Quel rapport?
Oui, alors, donc, moi, naturellement, après cette... ce phénomène qui a été observé par plusieurs avions, par pas mal d'avions, et qui a été ensuite, le lendemain, relaté par la presse. Et comme le ciel était clair ce soir-là, beaucoup de gens ont vu ce phénomène, depuis le golfe de Gascogne jusqu'en Alsace, en passant par toute la France, et y compris dans les pays nord de l'Europe. Alors naturellement, après cet événement, moi j'ai noté, j'ai fait un rapport, ce qu'on appelle le rapport du commandant, rapport circonstancié, qui a été ensuite envoyé, je pense, aux différentes administrations concernées.
Excusez-moi de vous interrompre, oui. Mais vous n'avez pas eu peur à ce moment-là qu'on ne vous prenne pas au sérieux?
Non, enfin, puisque cet événement avait été vu d'une part par tout l'équipage, je l'avais aussi annoncé à nos passagers qui tous l'ont vu très nettement et m'ont demandé d'ailleurs à l'arrivée à Barcelone, qu'est-ce que c'est, commandant, qu'est-ce que c'était? Bon, je suis incapable de dire de quoi cela a été fait. Mais non, je ne craignais pas du tout parce que les feux ont été vus par des milliers de personnes et par pas mal de commandants de bord qui étaient à ce moment-là dans le ciel de France.
Entre nous, vous auriez lu ça dans les journaux le lendemain, sans avoir été dans l'avion.
Oui.
Est-ce que vous l'auriez cru?
Ah ben oui, tout à fait. Parce que je crois que des phénomènes non expliqués, je pense que beaucoup de gens en ont vu. Le gros problème, c'est de les expliquer.
Alors justement, explication de vos supérieurs hiérarchiques de votre ligne, donc c'était Air Inter, Air France?
C'était Air France, oui.
Air France, comment ont-ils expliqué ça?
Ah ben Air France n'a rien expliqué parce que je pense que le rapport a été donc dirigé vers un bureau d'investigation qui concerne les phénomènes non expliqués, qui est, je crois, implanté à Toulouse. J'ai oublié le nom de cet organisme.
Non.
Bon, c'est un organisme qui est à Toulouse, qui est un organisme sérieux, qui essaye d'expliquer effectivement, qui récupère tous les phénomènes un peu non expliqués, les phénomènes aériens. Donc, eux m'ont renvoyé, ont pris note, ils m'ont renvoyé tout un rapport que j'ai toujours chez moi d'ailleurs, que j'ai reçu peut-être un mois plus tard, en me relatant avec des faits, avec pas mal de précisions mathématiques, et en quelque sorte, ils m'ont dit que c'était le retour du quatrième étage d'une fusée russe dans l'atmosphère.
Ah oui. Et ça vous a paru crédible comme...
Non, pas du tout, parce que nous, dans nos avions de ligne, on arrive quand même à voir, avec pas mal de dizaines de milliers d'heures de vol, on arrive à assister à des phénomènes de rentrée de l'atmosphère. Alors, ce sont souvent, naturellement, ce sont des météorites, mais il y a aussi pas mal de morceaux de ferraille, si je puis dire, qui retombent. Et quand il y a, tout le monde le sait, quand il y a un objet qui a été envoyé dans l'espace ou qui va rentrer dans l'espace, en fonction de son incidence par rapport à la couche d'air, au niveau de l'atmosphère, naturellement, en fonction de l'incidence, cet objet va s'enflammer très vite. C'est d'ailleurs le but des boucliers sur les capsules, pour les retours ou sur les navettes spatiales. Donc, cet objet, un quatrième étage d'une fusée russe, une fusée quelle qu'elle soit d'ailleurs, ou d'un satellite qui va rentrer dans l'atmosphère, va rentrer en collision très rapidement. Et on le voit très bien, d'ailleurs, quand cet objet rentre, en fonction de l'élévation de la température, on voit très bien les différences de couleurs de cet objet. On voit des verts, des bleus, et ça finit par des rouges, ou des blancs, ou des jaunes. Donc, un objet qui rentre dans l'atmosphère va s'enflammer, va fondre, et va provoquer, si vous voulez, d'une part, une lueur très intense, changeante, donc non stable au niveau de sa couleur, mais surtout, il va y avoir derrière, comme une étoile filante, les débris. Donc, il va y avoir derrière un panache. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. Et là, rien de tout ça.
Non, alors là, dans ce cas qui nous concernait, uh-huh. C'était une chose extrêmement stable et qui ne faisait pas du tout songer à une rentrée de quelque élément que ce soit avec combustion. C'était quelque chose qui était fixe et qui était très stable. Donc, moi, je n'ai jamais cru à cette thèse.
Mais comment expliquez-vous alors le rapport de cet organisme?
Vous savez, cet organisme, lui, il renvoie, par politesse peut-être, par courtoisie, il envoie une réponse parce qu'on a bien voulu faire un rapport. Donc cet organisme renvoie une réponse. Mais vous le savez tout comme moi que tout ce qui concerne ces phénomènes un peu, entre parenthèses, extraterrestres, sont plus ou moins secrets.
Vous avez eu l'impression, après, d'être un peu plus surveillé ou rien de tout ça?
Non, je ne pense pas. J'ai eu pas mal de courriers, un peu de courriers, quelques appels téléphoniques de certains reporters ou d'une dame américaine aussi. Mais non, je ne pense pas avoir fait l'objet de quoi que ce soit ensuite.
Alors, une douzaine d'années après, vous en êtes où? Vous comprenez ce que vous avez vu?
Non. Alors, j'avais fait un parallèle à l'époque, si vous voulez, parce que c'était juste avant la guerre du Golfe. Et donc, les Américains se déplaçaient, enfin, les avions de chasse ou les bombardiers américains se déplaçaient pas mal pour se mettre en place, soit sur la Grande-Bretagne ou à d'autres endroits. Et peut-être, j'avais pensé, pendant un moment, que ça pouvait être des objets virtuels. C'est-à-dire que c'était peut-être des objets qui volaient, mais qui envoyaient des images virtuelles autour d'eux, ce qui serait possible.
Une sorte de reflet?
Non, pas de reflet, mais vous savez, on peut maintenant, on peut propager des images dans l'espace, qui sont des images des images virtuelles. Vous savez, on voit ça actuellement dans des spectacles.
Des hologrammes ou des lasers.
Voilà, exactement, des hologrammes. Donc, moi, je pensais que peut-être il serait possible dans l'avenir, enfin, ou à ce moment-là déjà, de faire voler des avions de chasse, tout feu éteint naturellement. Bon, quand les avions de chasse sont en croisière, il n'y a pas de lueur de post-combustion, naturellement. Et de mettre autour, je ne dirais pas un bouclier d'hologramme, mais un système de leurre, si vous voulez.
Mais en tant qu'être humain, à partir du moment où vous avez appris que le radar ne voyait rien, et après avoir observé ce phénomène, quelle est la première pensée qui vous est venue?
Alors là, c'est difficile à dire, parce que, bon, d'une part, on observe un événement, un phénomène, mais après, il est quand même très difficile. On peut émettre plusieurs hypothèses, c'est certain. Quant à la présence ou un objet, si on veut... Moi, je parlerai d'objets non identifiés. Et encore que je n'ai pas vu l'objet, moi, en fait. Je n'ai vu que des lumières. Mais, bon, croire à la présence ou non d'hommes venus de l'espace, ça, c'est un pas que l'on pourrait franchir éventuellement si on avait des preuves, mais vraiment irréfutables.
Monsieur Loiseau, je vous remercie pour votre témoignage.
Je vous en prie, Alexandre.
Je vous souhaite une excellente soirée.
Également, si vous pouviez, monsieur Touarel, vous nous donnez le bonjour de ma part.
Sans aucun problème, au revoir.
Au revoir, Alexandre.
Voilà, c'était donc hier soir entre 19 et 20 heures, le commandant Loiseau, interviewé par nos soins. Et suite à vos recommandations, bah, effectivement, un auditeur nous en parlait il y a quelques instants, c'était Billy. Et puis on diffuse le document maintenant. Deux numéros de téléphone pour poser vos questions à Bernard Toinel. On va accueillir dans quelques secondes Albert. Il y a le 01 45 75 44 deux fois et le 01 45 75 45 45. Albert, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, et bonsoir à toutes. Et voilà, j'ai assisté ce soir, entre 20h et 22h, au débat sur HUMO. Un débat très intéressant, qui a eu lieu près du centre Pompidou. Mais là, ce n'est pas mon propos, parce que c'est beaucoup trop long. Hein. L'affaire HUMO qui a démarré en Espagne dans les années 66, c'est beaucoup trop long à expliciter. Moi, je voulais poser une question sur la trace de Marlien qui a eu lieu en juillet, août, je crois, août plutôt, 1967, à Marlien, près de Genlis, dans la Côte d'Or, dans le champ de Monsieur Maillot ou Mailleul. C'était dans un champ de... Voilà, parce que cette trace qui a laissé des sillons, c'était, comment dirais-je, on a retrouvé la même trace à Valensole, je crois, et puis également dans d'autres endroits, au Brésil particulièrement, au Mexique et tout. Et cette trace de Marlien, qui a été diligentée par la gendarmerie de Senlis, est très controversée actuellement. À l'époque, il avait été fait allusion à un atterrissage d'objets volants non identifiés. Et actuellement, cette thèse est complètement retiré. Je voulais savoir si Bernard, enfin, ce qu'en pensait Bernard exactement de cette phrase de Marlien, s'il en a entendu parler, bien sûr.
Oui, bonsoir Albert.
Oui, bonsoir Bernard.
Bien sûr, je connais l'affaire de Marlien. Bon, je ne la connais pas sur le bout des doigts parce que c'était pas notre enquête. C'était une enquête qui était menée par le GEPA à l'époque, par l'équipe de René Fouéret, Francine Fouéret, Joël Ménard. Donc, ce sont eux qui ont un petit peu suivi cette affaire. Bon, je dirais le détail de cette affaire apparaît dans un des bulletins du GEPA. Effectivement, je crois que c'est une affaire qui remonte à 66, je crois. Je suis pas certain de la date, mais enfin, c'est dans ces choses-là. Moi, à ma connaissance, ce n'était pas une trace, d'après ce que j'ai pu voir, c'était pas une trace qui était similaire à celle de Valensol. C'était une trace qui était intéressante, mais qui ne correspondait pas du tout à la trace coaxiale de Valensole.
Une trace,
ah oui, tout à fait, oui, il y a eu des traces qui ont été... Mais le problème de cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas de GEPAN, il n'y avait pas donc de service officiel pour... et il n'y avait pas de procédure. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, même l'affaire de Valensole, heureusement qu'il y a eu, je dirais, une enquête de la gendarmerie, à la demande d'ailleurs des voisins, et puis à la demande... de Maurice Mas, donc mais malheureusement pour Marlien, il y a rien eu de fait, hein, et je crois que le vrai problème, c'est que à l'époque, on était dans une époque un peu hybride, et malheureusement, il n'y avait pas, comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait pas de GEPAN, il n'y avait pas de groupement d'études de phénomènes atmosphériques non identifiés, il y avait les militaires, et puis point barre. Et puis il y avait les gendarmes, et puis il n'y avait pas de scientifiques pour étudier ce phénomène. Et le problème, il est tout de suite fait. Alors, des problèmes dans, comme Marlien, eh bien, il y en a eu à Forbach en 1954 également. Et puis, on a eu personne pour les étudier. En France, on a eu la seule possibilité de pouvoir étudier ces phénomènes a été de vraiment les étudier à partir de 1977, c'est-à-dire à la création du GEPAN. Et donc, à partir de ce moment-là, on avait des protocoles, des procédures entre les différents services militaires, scientifiques, donc ils fonctionnaient, je dirais, en parfaite cohérence. Et ce n'est malheureusement qu'à partir de 1977 qu'on a pu étudier véritablement, sérieusement, la problématique OVNI, en France tout au moins. Mais malheureusement, pour Marlien, je crois que ça restera une énigme. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que les traces au sol sont des cas qui méritent vraiment qu'on s'y attache. Et là, il y aurait dû avoir des analyses de fait, des collectes d'échantillons et des analyses, je dirais, faites par des laboratoires professionnels et patentées par les autorités. Ça n'a malheureusement pas été fait dans les règles de l'art.
Moi, j'ai cru que cela avait été fait.
Oui, ça a été fait, mais dans un but...
scientifique.
Bah oui, mais ça a été fait, je dirais, ça a été fait par des groupes ufologues, comme par l'association du GEPA. Il y a eu effectivement un rapport de gendarmerie, si je ne m'abuse, mais il n'y avait pas de protocole à l'époque.
Ah,
et c'était le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'enquête qui aurait dû être menée dans les règles de l'art, comme c'est le cas malheureusement, actuellement. Il n'y avait pas de protocole d'accord, et ça, je crois que pendant un bon nombre d'années, on n'a pas pu exploiter complètement. On a effectivement des enquêtes de gendarmerie, mais une enquête de gendarmerie, ce n'est pas une enquête scientifique.
Je comprends, mais...
C'est ça le problème. Et je crois que pour Marlien, il y en a eu bien d'autres. Hein. Valensole, d'ailleurs, c'est le même cas. Valensole n'est pas exploitable scientifiquement parce que il n'y avait pas de... Le GEPAN n'existait pas, il n'y avait pas de comité scientifique, on n'avait pas les lettres de protocole qui devaient fonctionner. Et normalement, bah maintenant, on a un énorme problème au niveau de, je dirais, de toutes ces affaires qui malheureusement auraient dû être traitées en temps et en heure, et malheureusement, on a eu 12 ans de fichu, quoi.
Eh oui.
Merci. As-tu une dernière question, Albert ?
Non, c'était la seule question.
Eh bien, merci à toi.
Merci, au revoir, bonne soirée.
Au revoir, bonsoir à tous.
Au revoir. Et nous sommes maintenant avec Gérard. Gérard, bonsoir.
Bonsoir Alex, bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Donc j'ai pris votre émission au début. C'est passionnant. Je voulais savoir si Bernard savait si les avions de ligne de quelque compagnie soit-il, étaient équipés d'un accessoire parmi les instruments de bord, on va dire conventionnels, d'un appareillage photographique uniquement pour documentation pour les compagnies, pour ces phénomènes, s'il en est besoin. Est-ce que systématiquement, il y aurait un appareillage photographique sur les avions de ligne ?
Hélas, non. Eh oui, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de... On a fait des règlements. C'est le cas d'un règlement sous la terminologie JAP 146. Mais il n'y a pas d'appareil photo dans les avions de ligne. S'il y a des appareils photo, c'est simplement dans la mallette du pilote à titre privé. Mais il y a d'ailleurs...
C'est pas partie de l'instrument de bord.
Ah non, mais il y a pas, c'est ça n'existe pas. On a aucun moyen, justement. Ça fait partie d'ailleurs dans les accidents d'avion. On a demandé ce qui est maintenant des caméras vidéo.
La boîte noire.
La boîte noire n'enregistre aucune.
Non, mais au point de vue information, on va dire de commande, etc. Bon, on a la boîte noire,
voilà. Les boîtes noires.
Les enregistrements. Mm-hmm. VHF, etc. Les communications, ouais. Mais pas même. Rien sur l'image.
Non, rien. Absolument rien. C'est d'ailleurs.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que je crois que d'abord les systèmes miniaturisés, d'abord ça coûtait très cher au départ. Et puis la miniaturisation, on pourrait le faire maintenant. Je crois que c'est.
Oui,
c'est,
parce que. On pourrait le faire. Aux instruments de bord, c'est le moindre compas, ça coûte énormément. Enfin bref, un rivet d'avion. Moi, quand j'étais à l'armée de l'air, j'ai su combien valait la moindre pièce qui était sur un Mirage 4. Et je m'étais renseigné, par exemple, des prix d'un rivet. C'était au-dessus d'un million d'anciens francs. Un rivet. Je ne sais pas si vous...
Ça me paraît pas mal, mais ce n'est pas étonnant.
Oui.
Ce n'est pas étonnant.
C'était, c'était dans les années 70.
Hein? Mmh, oui, ça me paraît logique. Hein. De toute façon, tout ce qui est, composants, de structure, parce que je crois que c'est lié à la composition du métal, hein, parce que ce sont
oui,
des
oui,
avions
oui,
qui...
avec la bulle dans le métal, etc., c'est passé d'une façon radiographique, etc., tout est contrôlé. Mais enfin, je m'écarte du sujet, parce que je savais aussi qu'il y avait... Un marché de la pièce détachée d'avion qui n'était pas aux normes, etc., et qui était fabriqué dans d'autres pays, etc., mais qu'on avait su qu'Air France faisait très très attention à ça pour ce qui était la maintenance et le changement de pièces. Mais je m'étonne, et je ne sais pas pourquoi, on ne met un appareillage photographique dans le cockpit, c'est parce qu'il tient beaucoup de place en plus.
Puis, je crois qu'à l'heure actuelle, les compagnies aériennes, malheureusement, ont d'autres chats à fouetter que de penser, à l'image. Mais je suis persuadé, et ça je le dis en connaissance de cause, que dans les avions futurs, surtout ces énormes gros cubes de A380 qui seront en service d'ici une dizaine d'années, là on sera obligé d'avoir des caméras vidéo parce qu'on peut plus voir. Rien que dans un 747, les pilotes ont une marge de visibilité extrêmement réduite. Hein. On ne sait pas ce qui se passe sous l'avion, on ne sait pas. Donc il y aura forcément des caméras qui vont être installées, c'est clair.
Gérard, as-tu une autre question ?
Bon, j'avais juste une question, mais peut-être ça m'a passé au-dessus. C'est l'explication, ou plutôt la version de Bernard, en ce qui concernait l'histoire du bombardier avec on va dire OVNI, hein. OVNI se posant. Alors là, j'ai pas intégré. J'ai pas intégré la description. C'était où? C'était aux USA, un bombardier qui s'est posé.
Non, je crois Gérard que tu es en train de nous parler de l'OVNI qui s'est posé dans la base américaine. C'était pas
voilà,
du tout sur.
J'aimerais que Bernard développe la façon dont
il a eu connaissance de l'information.
Oui. Voilà, c'est ça.
D'accord, très
bien.
Merci
beaucoup.
Merci à toi Gérard, au revoir.
Bon, pour répondre très brièvement je dirais Gérard, hein. L'affaire s'est déroulée le 13 octobre 1968. Elle a fait l'objet d'un rapport dans le cadre de la commission Blue Book, donc organisme officiel chargé de l'étude des ovnis au sein de l'US Air Force. C'est un rapport conséquent qui est donc intégré, qui est incomplet. Mais il y a les transcriptions de dialogues de l'équipage du B-52 qui a observé, qui s'est fait poursuivre par un OVNI, et il y a effectivement une partie des éléments d'enquête qui apparaissent, et tout le reste, eh bien, on a fait un complément d'enquête en retrouvant l'intégralité de l'équipage. On a retrouvé également les policiers militaires et les commandos qui étaient chargés effectivement de se rendre sur place dans le site des missiles où le fameux OVNI se serait posé. Et là, effectivement, on a des documents, on a également des témoignages de gens qui étaient sur place. Et tous ces gens qui ont été interviewés, je dirais, de manière individuelle, ont raconté exactement, rigoureusement, la même chose, vraiment pris individuellement et après 30 ans d'écart. Et ça, je crois que c'est quand même une preuve d'une certaine logique, une certaine y a quand même un suivi. Et depuis 30 ans, eh bien, ils se sont vraiment souvenus du moindre détail de cette affaire.
Allô?
Bonsoir Claudine.
Oui, je vous entends très mal. Il faut dire que je suis une très vieille dame, donc un peu sourdingue, mais parfaitement consciente. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai écrit au camp d'Evreux, qui était un camp militaire américain pour l'aviation. J'étais donc avec mon mari, qui était très grand, dans une toute petite voiture. Il ne pouvait rien voir, il avait presque les genoux dans le
pare-brise.
Oui, c'est ça. Et moi, j'avais ma fille sur les genoux, mais ça ne me gênait en rien. Ça devait donc être il y a 50 ans, vous voyez, qu'il y a longtemps. Or, je regardais dans le ciel, il y avait beaucoup de voitures qui passaient, et tout d'un coup, j'ai vu des avions, ce que j'ai appelé des avions. Extraordinaire, c'est-à-dire il y en avait trois, c'était des cigares, voyez-vous, des cigares qui avaient deux rangées de hublots, petits hublots, le tout paraissait très petit, sauf les cigares qui étaient énormes, mais des petits hublots, vous savez, il y en avait une quantité. Et ces trois étaient là. Oh, je dis à mon mari, quels avions extraordinaires, j'ai jamais vu des avions pareils, etc. Il essayait de voir, mais il n'arrivait à rien, d'autant plus qu'à Berpa, qu'il y a beaucoup de monde sur les routes. Bon, et à ce moment-là, tout d'un coup, les trois, sans bouger d'emplacement par rapport les uns aux autres, ont changé de place, mais tellement vite. Oh, j'ai dit, c'est tout. Alors là, j'étais complètement soufflée. Pouf, ça fait. Et ils étaient dans la même, par rapport aux uns, les uns les autres, ils étaient pareils. Mais ils n'étaient plus dans l'endroit où je regardais, vous comprenez? Mais ils avaient changé de place comme ça, très très rapidement. Bon, j'ai encore le temps de dire plusieurs fois, c'est extraordinaire, ce qu'ils sont beaux, ça. Vous savez, on aurait dit le mercure qui est liquide sur Terre, mais c'était la luminosité du mercure. Bon, et tout à coup, ces avions ont disparu dans l'infini, enfin en face, et à leur place, j'ai vu trois tuyères, n'est-ce pas, qui émettaient des petits... J'ai pas vu les tuyères parce que ça s'est passé très vite, mais j'ai vu les trois lunes, si vous voulez, de poussière noirâtre que, qui venait des tuyères. J'ai donc écrit au commandant américain en anglais, c'était encore difficile, mais enfin ça a été. Et il m'a répondu qu'on voyait beaucoup de choses dans les airs, mais qu'on ne pouvait pas, c'était une réponse dilatoire. Voilà.
Bien, merci pour ton témoignage, Claudine.
Bonsoir.
Comment ?
Merci pour ton témoignage, Claudine.
Oui, mais vous savez, je ne crois pas n'importe quoi.
Ah ben, on sait.
Et quand je suis arrivée chez mon oncle, j'allais chez mon oncle, je lui ai décrit ça. Il m'a tout de suite dit, c'est des ovnis. Alors j'ai été soufflée, naturellement. Sur le coup, je disais, oh, quel beau avion, quel beau avion. Mais c'est quand je lui ai dit, il n'y avait pas d'hélice, il n'y avait rien. À l'époque, on avait encore des avions à hélice.
Bonsoir, Claudine. J'aimerais vous
mais
poser
vous
une
savez,
question.
Claudine. Je voulais dire tout à fait à côté, mais enfin, aux soucoupes volantes, enfin, parce que j'en ai pas vu, puis je ne crois pas tout ce que je vois, j'ai réfléchi depuis le temps, et qui font des marques dans le sol et dans les herbes. Je signale qu'en Angleterre, et il faudrait voir, mais j'ai vu un truc à la radio pour ça, à la télé même, et on voit, en Angleterre, il y a des espèces de, dans les champs comme ça, de grands roues, si l'on veut dire, aplati complètement et brûlé un peu. Et à côté, ça s'arrête net et ça reprend normalement. Alors ça, c'est pas encore, c'est tout à fait autre chose.
C'est
hein.
tout à fait autre chose, on est dans les crop circles. Claudine, merci beaucoup pour ton témoignage.
On souhaite
une excellente nuit.
Au revoir.
Voilà, intervention de Claudine, comme tu as dû en entendre pas mal, non ?
Un petit commentaire quand même.
Vas-y.
C'est très très je dirais caractéristique. Moi ça me rappelle la vague de 54. Ça me rappelle un petit peu ce que voyaient les gens à l'automne 1954 et en France. Et le descriptif qui a été fait par Claudine de ces espèces de cigares de couleur mercure correspond parfaitement au descriptif de certains témoins de l'époque qui effectivement rapportaient des objets qui non pas émettaient de la lumière mais enfin qui étaient très métalliques comme du métal liquide, enfin quelque chose qui était chromé. Et ça, c'est vraiment, ça se ressent au travers de ce témoignage. Donc, c'est pas un témoignage que je rejetterais, bien au contraire.
Bertrand, bonsoir.
Oui, bonsoir. Donc, j'ai suivi votre émission depuis, je crois, le début, là, et je crois que votre invité, Monsieur Toinel, a parlé, en fait...
Mais il t'écoute, hein, il va te répondre.
Des ovnis à partir, donc, de Roswell, en gros, juste après la Seconde Guerre mondiale.
C'est oui, bonsoir. Pas, oui. Oui, tout à fait.
Oui, d'accord. Et donc moi, ce que je voulais savoir, en fait, je voulais savoir votre avis sur la question, c'est que s'ils sont apparus, on suppose que ça existe, s'ils sont apparus après 47, c'est-à-dire qu'on en parle justement à partir de cette époque, ils sont bien arrivés aussi avant.
Oui,
d'accord.
Moi, je... Attendez.
Non, mais je sais que vous êtes intéressé à partir de 47.
C'est un peu le sujet de l'émission.
Alors Bernard, si je peux me permettre, Bertrand, d'intervenir dans ta question. Bernard, tu...
J'ai pas encore posé ma question.
Non, bah justement, mais dans le développement, en tout cas, de ta pré-question, Bernard, tu t'es intéressé aux ovnis à partir du moment où il y avait des rapports officiels.
Absolument. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'il y a des rapports officiels antécédents à 1945, il y en a qui remontent à 1897, il y en a qui remontent à Pline l'Ancien, mais c'est pas... Je dirais que il fallait déjà se conformer à une période, hein, parce qu'on peut pas partir dans tous les sens. Donc
non, mais d'accord, je suis d'accord avec vous, mais en fait, donc je vais venir directement à ma question.
Allez-y. Ouais.
Moi, ce qui m'étonne dans tous les témoignages qui sont produits, c'est que à chaque fois, il s'agit en gros de deux types d'objets, soit on va dire en forme de disque, en soucoupe volante, soit en forme de cigare.
Oui, c'est exact.
Et moi, ce qui me surprend, c'est que, on parlait de 47, donc ça fait 50 ans.
Non, ça fait 55 ans.
Depuis 50 ans, ils ont toujours la même forme. Donc, c'est comme s'ils n'évoluaient pas dans le temps.
Bah, non.
Alors enfin... que nous, nos objets volants évoluent.
Oui, non, mais...
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui, tout à fait.
Parce qu'il y a bien une technologie. Mais c'est comme si la technologie était figée, qu'elle n'évoluait pas.
Bah, disons que je suis pas trop, si vous voulez, votre question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des triangles qui sont observés. Et il n'y a pas que des cigares et des soucoupes. Il y a des boules lumineuses. Il y a des sphères. Il y a des planétoïdes. Je pense qu'au contraire, on a affaire à une quincaillerie céleste. Le fait de dire que ça n'évolue pas, moi, je ne saurais vous dire. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une évolution en soi dans
terre à terre, hein.
Comment ?
C'était pour être très terre à terre. C'est que, en gros, si vous voulez, comme vous disiez, il y avait une grande vague au début des années 50, bon, entre 45 et 50. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y en a eu aussi une vague dans les années 70 à peu près.
Oui, c'est vrai, mais je pense que de toute façon les formes diffèrent un petit peu en fonction des vagues. Bon, je sais qu'il y a différentes. Il y a des fois on voit des cylindres. Il y a des fois, je dirais que les formes sont vraiment diverses et variées. Il n'y a pas, on peut pas se confiner simplement aux cigares, aux boules. C'est vraiment très diversifié. Il y a des gens qui voient des trucs même qui sont indéfinissables. Hein, je crois que on peut pas lier franchement les formes à la technologie du moment ou dire qu'il n'y a pas une évolution. D'abord, on ne sait même pas de quelle technologie il s'agit. Il faudrait savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont de chez nous ou des gens du futur ou des extraterrestres ou rien du tout. Enfin, on n'en sait rien. C'est-à-dire, le phénomène OVNI, c'est un phénomène qui est extrêmement large et qui comprend des phénomènes naturels, je suis obligé de le dire, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas expliquer. C'est une un des éléments, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement des éléments artificiels, il y a des éléments qui sont conçus peut-être sur Terre, mais peut-être pas à notre époque. Je crois qu'on peut se perdre en conjecture en matière d'hypothèse, parce que justement, tant qu'on n'aura pas donné une étiquette, tant qu'on n'aura pas donné une carte d'identité à ces phénomènes, on tournera toujours autour du pot. Alors, c'est vrai qu'il y a des formes différentes, c'est vrai que... Mais je veux dire, moi, je pense pas que ça soit lié à une évolution où... Moi, j'ai pas l'impression. Hein. C'est pas l'impression que ça me donne, en tout cas. Ça, je crois qu'effectivement, on rapproche ça par rapport à ce que nous connaissons. Mais c'est tout. Je veux dire, c'est vraiment une hypothèse d'école. Hein. Moi, je mets au défi quiconque de pouvoir répondre à cette une évolution dans le temps et dans les formes.
D'accord. Ok, bah c'était tout. Hein.
Voilà.
Je vous remercie.
Merci à toi, merci pour ta question. Alors, je vous propose à tous d'écouter une interview qui a encore été réalisée donc hier soir. Jacques Krien.
Oui, qui est colonel de l'armée de l'air de réserve, qui est un ancien leader de la patrouille de France et qui est un pilote hautement crédible dans l'Hexagone. Et ça répond d'ailleurs à une question que j'ai vue sur le web. Pour les pilotes militaires en France, eh bien... On a également un rapport qui est intéressant, une observation par un pilote de chasse de l'armée de l'air française qui s'est livré donc à l'interview d'Alexandre et nous allons l'écouter là.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2. Monsieur Krien est avec nous. Jacques Krien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors tout d'abord, Monsieur Krien, qui êtes-vous ?
Je suis un aviateur. J'ai une formation de l'armée de l'air comme pilote de chasse. Et maintenant, je suis commandant de bord sur Airbus dans une grande compagnie aérienne.
Donc on peut dire que votre carrière ne s'est pas arrêtée à ce que vous avez vu. Et d'ailleurs, qu'avez-vous vu ?
Alors ce que j'ai vu, écoutez, j'étais en entraînement à l'époque, c'était dans les années 72. J'étais avec mes collègues pilotes de chasse et nous faisions des entraînements qui se pratiquaient dans l'armée de l'air. D'ailleurs, une des seules choses qui se fait dans la seule armée de l'air au monde, c'est qu'on se faisait des rassemblements de nuit. Dans le but, j'allais dire, de reconnaître ou d'interroger des avions qui pouvaient à l'époque, traverser notre territoire national et aérien. Donc, c'est des rassemblements sur des avions, donc de nuit. Alors, la chose pour se faire, eh bien, on partait à deux avions. sous contrôle radar serré, on s'écartait à peu près de 200 km. Et alternativement, l'un était guidé par le radar pour rassembler sur le deuxième qui faisait office de plastron. On rassemblait, on donnait un coup de phare. Nos avions étaient équipés de phares justement spéciaux pour éclairer latéralement les avions sur lesquels on rassemblait. Et puis on s'entraînait à ça avec le radar de bord. Il y avait toute une procédure qui était assez pointue puisque le rassemblement de nuit est un exercice assez, je veux dire, bon, c'était l'artisanat d'art un peu. Hein. Il fallait être bon, il fallait s'entraîner, il fallait faire ça en toute sécurité. Et ce soir-là, il devait être 10h30, 11h du soir, la nuit était belle. Il y avait des étoiles partout, on voyait bien le ciel également. Et il y a un moment, au moment où moi j'étais chasseur et j'étais présenté donc sur mon collègue qui me servait de plastron, j'ai vu passer un objet, je dirais, très lumineux, qui ressemblait, enfin c'est mon interprétation de l'époque, qui ressemblait à un grand cigare avec très éclairé de l'intérieur avec du hublot. Alors ma première réaction, c'était de dire au contrôle, écoutez, il y a un avion de ligne dans les parages, là, il y a un autre avion.
De quelle taille environ cet objet, quelle taille environ?
Non, ça ressemblait à la taille d'un gros avion, je veux dire, ça aurait pu. À l'époque, ça m'avait pensé une caravelle. Hein. La mode, c'était les avions de ligne qu'il y avait en France, c'était les caravelles. Et ça aurait pu être cette dimension-là. Mais il faut savoir que la nuit, il y a plein de sensations visuelles, un peu d'aberrations visuelles, et que les proportions sont très subjectives. Quelque chose de gros peut vous apparaître petit, et quelque chose de petit, à la limite, peut vous apparaître plus gros. Donc je demande au radar, le radar me dit on n'a rien, mon collègue il me dit bah oui je vois quelque chose. Bon, c'est vrai qu'à l'époque on était assez attentifs à ne pas s'approcher des avions de ligne, comme ça. Donc on dégage et on demande au radar de nous faire dégager pour une deuxième présentation. Là c'était mon collègue qui était en présentation sur moi et j'allais dire bah de nouveau on voit cet objet là qui volait, qui était lumineux et qui vient se foutre entre nous. Et à ce moment-là, on dit, bon, je rappelle le radar, j'ai écouté, c'est pas normal, ça, il y a quelque chose, on voit un avion, on sait pas vous dire ce que c'est, mais ça ressemble à un avion en tout cas. Donc on met la post-combustion, on essaye d'aller dessus. Et là, pouf, ça se disparaît, mais alors à la rapidité de l'éclair. Bon, et on se diffuse, alors, ça s'en va, on a peut-être des aberrations, on refait une troisième présentation. Enfin, ça a duré quatre fois, cette affaire-là. Hein. Donc, et à chaque fois, cet objet venait sur nous, comme en observation, et dès qu'on faisait mine de se rapprocher de lui, ça partait comme, je dirais, une mouche pour essayer d'attraper, quoi, hein, à la vitesse de l'éclair.
En fait, il jouait, cet objet jouait avec vous, en quelque sorte.
Oui, enfin, disons, il venait nous voir, c'est comme, je vais dire, l'interprétation qu'on aurait pu en avoir, c'est qu'il venait nous observer, et dès qu'on faisait mine d'aller sur lui pour voir ce que c'était, il se carapatait à vitesse grand V.
Mais hein, à l'époque... À l'époque, aviez-vous la connaissance d'un objet volant militaire qui ait la possibilité de venir et de repartir à une telle vitesse?
Écoutez, le contexte, c'est que, d'abord, on a cru à des illusions sensorielles de part et d'autre, mais comme on s'est débriefé un peu à l'arrivée, comme on a dit, on l'a vu plusieurs fois, on l'a vu à deux, je dis, bon, on peut que quelqu'un ait une illusion, voyez, optique, etc., bon, ça peut arriver. Qu'on l'ait plusieurs fois, c'est déjà plus rare, et qu'on l'ait deux types à la fois, c'est quand même un peu étonnant. Alors, pour me remettre dans le contexte politique, c'était quand même une bonne époque de la guerre froide, c'est que ces choses-là étaient top secret, là, parce qu'on pensait toujours, effectivement, que c'était soit des Américains, soit les Russes qui inventaient de nouveaux astronefs avec des performances complètement extraordinaires et inconnues, et c'est vrai que la première pensée qu'on avait, la peur qu'avaient les gouvernements, c'est que on serve de terrain d'expérimentation à des prototypes qui auraient pu sur de nouvelles données techniques, hein, se baser sur la vitesse de la lumière, sur les photons, sur des sources d'énergie sur lesquelles on travaille encore. Et c'était une première pensée qu'on avait. Mais ce qui nous revenait de ma discussion de mon camarade et moi-même, c'est que ça ne correspondait à rien de ce que nous, on pouvait, j'allais dire... établir à travers notre expérience aérienne, de tout ce qu'on connaissait, de tout ce qu'on avait vu, on dit ça, on ne voit pas ce que c'est, on ne voit dans nos connaissances actuelles, on ne voit rien qui puisse correspondre à ce genre de trajectoire, à ce genre d'accélération et à ce genre de vol, si vous voulez. Donc on était dans l'expectative.
Et toujours actuellement?
Oui.
C'est ça qui est...
Actuellement, je me dis, bon, j'ai encore l'image, j'ai encore les images qui sont assez, assez nettes dans ma mémoire, j'ai surtout un peu les émotions et l'état d'esprit dans lequel j'étais, et je ne vois pas à quoi ça peut correspondre actuellement, puisque bon, maintenant, c'est un peu planétaire, bon, la Russie, on sait ce que c'est, etc., on est un peu plus au courant des progrès qu'on a fait dans la propulsion, dans le déplacement des véhicules de l'espace et tout. On sait que pour le moment, on n'a pas ce pouvoir, si vous voulez, d'avoir des véhicules qui pourraient se déplacer de cette manière. Donc, si vous voulez, on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Quand je m'interroge de temps en temps, je me dis, bon, j'ai pas d'explication logique dans mes connaissances actuelles techniques qui pourraient donner l'explication. Alors, c'est vrai que l'état d'esprit qu'on avait à l'époque, on se dit, bon, c'est comme croire en Dieu à la fin. On se dit, bon, si c'est vrai, ça peut être génial, parce que ça peut être une autre dimension. Des gens, enfin, vous savez, on rentre à ce moment-là dans le Spielberg qui va bien. Ou on se dit, bon, bah, peut-être que plus tard, on aura une explication tout à fait logique de ce phénomène. Quand il est vrai que les Américains ont à peu près gardé, je crois, entre, Satouanel vous le dira, entre 150 ou 200 dossiers qui restent complètement objectifs et non expliqués. Il y a des images qui sont assez, à travers tous les tricages qu'on peut faire là-dedans et tous les effets spéciaux qui demeurent quand même assez étonnantes. Alors la question reste posée. Moi, ça m'amuse et ça m'enchante. La partie, je dirais, histoire merveilleuse, ben pourquoi pas. Hein, peut-être que c'est peut-être des manifestations qui arrivent de temps en temps. Hein, et d'ailleurs, quand on parle de ça, je me rends compte, moi, dans mon métier, où nous sommes des gens très sérieux, on en parle avec beaucoup de pudeur, ben, il y a des gars qui me disent, ben oui, moi aussi, à telle époque, j'ai vu ça, moi aussi, à telle époque, j'ai vu ça, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça. D'ailleurs, j'ai vu un deuxième phénomène qui s'est représenté, j'étais à l'époque à Air Inter, ça devait être en 80 ou 81, où j'ai vu, en fait, des phénomènes dans le ciel, qui étaient, comme on aurait dit, un vol de formation d'avion avec des traînées derrière, avec une lumière très... complètement, c'est passé au prisme là. Et le lendemain, le surlendemain, il y a eu des témoignages, des gens sont passés à la télé, des jeunes qui ont fait des dessins, etc. Donc il reste quelque chose qui est assez étonnant. Alors est-ce que c'est un espoir pour dire bon, on va déboucher un jour sur quelque chose d'extraordinaire dans des connaissances aéronautiques ou sur un autre monde, ou alors bon, c'est des hallucinations collectives où on trouvera une explication.
Mais il y a des rapports officiellement sur cet événement ?
Ah oui, des rapports, il y en a, oui. Les rapports, il y en a, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, bon, c'était top secret dans la mesure où tout le monde s'observait entre le bloc de l'Est, les Américains, l'OTAN, etc. On en faisait un peu partie. Et qu'il était relativement malvenu de raconter des choses comme ça, ou alors on était tout de suite pris dans un contexte très très lourd et très secret. Je disais, les Américains ont fait des études sérieuses, parce qu'à partir du moment où ils s'y sont mis, ils sont très pragmatiques, bon, où on cache, hein, ou alors d'abord, je crois qu'ils ont d'abord eu une première attitude, c'est que c'était, c'est rentré dans les renseignements, dans le top secret, et que les informations qu'ils ne laissaient filtrer étaient tout propres à déstabiliser les gens qui avaient vu ça. Je sais qu'actuellement, ils ont à peu près 150 à 200 cas qui sont tout à fait répertoriés dans leurs études actuelles pour lesquelles ils font des recherches. Et dans tous les pays, d'ailleurs, il y a des comptes rendus de témoins oculaires qui ont vu des choses qui, je pense, indépendamment de tout ce qu'on peut trouver dans les hallucinations collectives, les romans, les machins, les trucs, les bidules, qui ne trouvent pas d'explication, grâce à la technologie actuelle.
Et alors, vos supérieurs de l'époque, comment ont-ils réagi?
Ils n'ont pas réagi parce qu'on a gardé ça pour nous. Parce que quand on s'est reposé avec mon camarade, on s'est un peu regardé, on a dit, bon, qu'est-ce que t'en penses? On a discuté longuement entre nous, on a dit, c'est quand même étonnant, on a discuté longuement, on a dit, tu penses que c'est quoi? Alors, mon camarade est avec moi, était pilote de chasse aussi, c'est un lieutenant. Il dit, je vois pas ce que c'est. On disait, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qui a dû vous agacer, qui venait un peu comme, vous savez, la mouche qui vient vous observer, là, en entre les yeux, puis on essaie de l'attraper, elle se sauve, quoi. C'était assez étonnant. Le contexte historique était assez étonnant. Et, si vous voulez, à l'époque, il n'était pas très bon de rentrer en racontant ce genre de choses, quoi. Parce que d'abord, deux choses l'une, où on était mis un peu au secret, ou au moins, discrétion, ou on passait en visite médicale et là on nous taxait un peu de désinitieux farfelus, vous avez pris de la moquette, vous avez pris du champagne, vous avez vu quoi, et que comme on avait, c'est qu'on a un suivi médical très très important et que il y a aussi, j'allais dire, des conditions physiques et mentales, et à l'époque je pense que le coefficient mental nous aurait un peu gêné, quoi. Je veux dire, on aurait pu avoir une interprétation peu favorable pour nous.
Et alors, actuellement, est-ce qu'il y a deux écoles chez les pilotes? Ceux qui voient les événements et qui n'en parlent pas, et l'autre école, celle qui voit les événements et qui en parle, oui. Ou est-ce que ça reste encore très discret?
Ça reste très discret. Il y a toujours une énorme pudeur. Par contre, si vous voulez, l'état d'esprit a changé. Bon, il y a quand même depuis 15-20 ans, bon, l'état d'esprit a changé. On n'est plus dans cette espèce de guerre secrète qui était entretenue aussi bien dans les médias que dans les romans entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, ou peut-être justement, comme vous disiez tout à l'heure, qui est-ce qui a trouvé la dernière invention qui est menaçante, hein. On a peut-être, les gens ont peut-être trouvé le secret de du vol photonique ou dans des, j'allais dire dans des énergies intersidérales. Alors les gens en parlent un peu mieux. Les gens en parlent maintenant de temps en temps, mais ça reste très discret. Il y a une forme de pudeur. Vous savez, je suis passé dans une émission où la gouvernante de mon fiston le matin, elle m'a dit, mais ça y est, le secret, vous avez fumé de la moquette, quoi. Vous voyez, bon, il y a quand même une réaction, je dirais, bon, au niveau de la conseillère, je sais pas ce que, pas trivial, mais je veux dire, au niveau du bon sens populaire, où les deux actions sont complètement, oui. Il y a des gens intéressés, parce que c'est comme tout ce qui est un peu ésotérique, dès qu'on en parle, les gens disent, ah, mais oui, moi aussi, j'en ai vu. Et puis, par contre, faut lancer le débat, quoi. Faut lancer le débat.
Alors, en conclusion, monsieur Crine, des années après, vous vous posez toujours des questions?
Oui, moi je me pose toujours, très honnêtement, ça fait partie de temps en temps de mes petits rêves à moi, où si vous voulez, je me dis, bon, bah si c'était vrai, si c'était des ovnis, des martiens, tout ce qu'on veut, vous voyez, un peu, si c'était des extraterrestres, si c'était à l'autre monde qui venait nous visiter avec une technologie, ça serait peut-être, moi je les vois pas comme des esmis, je vois des suppléments de conscience, puis à l'autre moment je me dis, bon, bah écoute, dans 5-10 ans ou avant ta mort, on trouvera une explication, quoi.
Monsieur Crine, je vous remercie.
Allô?
Oui, je vous remercie, monsieur Crine, et je vous souhaite une excellente soirée.
Voilà, merci.
Merci.
Au revoir.
Voilà, vous êtes sur Radio Ici Maintenant, 95.2, et on se permet une petite pause musicale. Oh là, ça y est, ça recommence à sonner. Deux numéros de téléphone pour nous joindre, 01 45 75 44 deux fois, ou 01 45 75 45 45. Radio Ici et Maintenant, 95.2, il est à peine midi, on est ensemble jusqu'à 17h, non c'était une blague.
Jean-Luc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi j'ai une réflexion sur le reportage qu'on vient d'entendre.
Donc monsieur le commandant Crine.
Oui.
Colonel Crine.
Si j'ai bien entendu, ils ont effectué 4 manœuvres successives,
ouais.
Qui ont eu pour origine le même phénomène. Dans les vols militaires, que je sache, les communications radio sont enregistrées en permanence. Et il nous dit qu'il a gardé le silence sur ce qu'il avait vécu. Alors, je suis très étonné, quoi.
Bien, on va répondre à...
Premier aspect.
Ouais, on va répondre à cette question. Mais justement, un spécialiste à côté de nous, on a Eric Julien.
Alors Eric Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous, aux auditeurs, aux auditrices, et Alexandre et Bernard, bonsoir.
Alors, à tous ceux qui écoutent, y compris ceux qui peut-être nous écoutent de très très loin, dans l'espace, pourquoi pas. Éric Julien, on va te présenter.
Oui. Je me présente, entendu. Eh bien, je suis un professionnel du transport aérien, mais j'ai commencé ma carrière en tant que contrôleur aérien dans l'armée de l'air, donc j'étais militaire. Et j'ai ensuite poursuivi, après la fin de mon contrat dans ce bel organisme qui est l'armée de l'air française, en tant que pilote d'aviation d'affaires. Ensuite, une fois la guerre du Golfe passée, beaucoup de compagnies aériennes ont chuté, hein, n'ont pas résisté aux aspects économiques qui bouleversaient le transport aérien à l'époque. Et je suis entré dans une compagnie aérienne en tant que chef d'escale de permanence. Et plus tard, 80 ans plus tard, je me suis retrouvé au sein même de l'aéroport dans lequel j'ai travaillé. Et donc, je suis aujourd'hui cadre dans un grand aéroport que certainement beaucoup d'auditeurs connaissent.
Alors, tu vas pouvoir répondre à la question de Jean-Luc ?
Oui, alors, les pilotes militaires, enfin, tous les vols militaires ont leurs conversations enregistrées. Enfin, en tout cas, les échanges entre les contrôleurs et les pilotes sont enregistrés. Les bandes sont conservées plusieurs mois. Et si nécessaire, sont analysés en cas d'incident, mais enfin, on les garde pas très longtemps en réalité. Hein.
Alors, si nécessaire me semble très intéressant. Comment, dans le cadre d'une manœuvre qui est décrite comme étant très spécialisée, très pointue et autres, les contrôles aériens peuvent accepter que la manœuvre soit interrompue et modifiée à 4 reprises sans explication valide?
Eh bien, là, il s'agit de la responsabilité du pilote, hein, à savoir que le contrôleur réserve un espace aérien, enfin en tout cas s'assure que le volume d'espace aérien dans lequel évolue donc l'appareil ou les appareils est bien en toute sécurité. Par contre, ces autopilotes, dès lors qu'il est en vol en visibilité, éventuellement, de s'assurer de l'anticollision avec des appareils qui pourraient être appareils identifiés ou non, du reste, qui pourraient être autour de lui.
Oui, mais là, c'est problématique parce que eux nous disent que ils semblent identifier un contact visuel qui semblerait avoir l'apparence d'un appareil civil. Donc, d'évidence, il se renvoie au navigateur qui va lui dire si l'espace aérien est réellement libre ou pas. Ça semble évident, quoi.
Alors, le contrôleur aérien, qu'il soit militaire ou civil, sait s'il existe des appareils identifiables ou identifiés. En revanche, s'il s'agit d'un OVNI, c'est beaucoup plus délicat parce que tous les ovnis ne sont pas identifiables au radar.
D'accord. Donc on procède par une démarche inverse. Là, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'entendre. La personne, avant d'envisager la présence d'un ovni, envisage la présence d'un appareil civil puisqu'il l'identifie comme étant à peu près une forme de caravelle. Donc l'image mentale première qui arrive, c'est présence d'un appareil civil dans notre espace aérien. Donc directement la démarche rationnelle, c'est de prendre contact avec l'aviation civile ou le contrôleur aérien du secteur.
Oui, alors ça dépend du régime de vol qu'il a sur son plan de vol. Si c'est un régime de vol militaire, il a auprès de lui un contrôleur aérien militaire. Si c'est un régime de vol civil, il a en face de lui un contrôleur civil.
Donc on reste encore sur un binaire qui a l'air de bien fonctionner. Un aviateur, fût-il militaire dans un espace et dans le cadre d'une évolution militaire, pense être en contact visuel avec un appareil civil. Que fait-il?
Alors le militaire est au courant, enfin le contrôleur aérien militaire est au courant de tout le trafic aérien qui se trouve dans la zone de contrôle radar dont il a la charge. En réalité, l'espace aérien français ou dans tous les pays est sectionné, si je puis dire, de façon horizontale et verticale. Donc les appareils évoluent soit dans les voies aériennes lorsqu'il s'agit de d'avions civils, soit dans des volumes d'espace aérien qui sont libres de manœuvre s'il s'agit de pilotes militaires. Alors, pour le pilote qui voit une caravelle, il est clair qu'a priori, cette caravelle devrait se trouver dans une voie aérienne, donc contrôlée par les civils. Cela dit, si d'aventure un avion sorti d'une voie aérienne, les contrôleurs militaires qui sont détachés auprès des contrôleurs civils, c'est-à-dire dans les centres de contrôle régionaux, communiquent bien entendu avec les contrôleurs civils. Hein. Il n'y a pas absence de contrôleurs militaires chez les contrôleurs civils.
Oui, mais là, on travaille à l'inverse. Là. On travaille à l'inverse. Je suis désolé de revenir sur le problème. Je crois qu'il faut être un peu obtus, parce que sans ça, on n'arrive pas à réellement communiquer. L'aviateur militaire pense être en contact visuel avec un appareil civil. D'accord? C'est bien ce qui nous a été dit.
Tout à fait, oui.
Bon. Donc, réflexe primaire. Qu'est-ce que fait cet appareil dans notre espace, ou dans cet espace? Le seul référent, c'est quand même l'aiguilleur aérien, ou celui qui assure le contrôle de la zone.
Oui, alors j'ai donné un petit peu toutes ces précisions techniques, juste pour indiquer que, a priori, s'il n'y a pas de contact radar, que ce soit les contrôleurs aériens militaires ou les contrôleurs aériens civils, personne ne lui indiquera quoi que ce soit.
Non, mais c'est l'inverse.
Oui, j'ai bien compris. Si le pilote n'a pas le réflexe de demander au contrôle s'il y a bien un trafic dans telle position horaire et à telle altitude estimée...
Ah, c'est intéressant, hein, voilà. Vous êtes en train de dire. Vous parlez de réflexe, et moi je parlais de protocole. Il n'y a pas de protocole dans les vols de l'armée?
Il est de la responsabilité du pilote de poser la question au contrôleur aérien. Le contrôleur, bien
d'accord,
entendu, ne peut pas
ça,
deviner la
protocole.
Position.
C'est un protocole.
Oui, tout à fait. Enfin, tout comment dire, professionnel de l'aviation va demander s'il y a bien un trafic à telle position, si ce trafic représente un danger quelconque pour le pilote.
D'accord. Est-ce qu'on n'est pas à ce moment-là dans le cadre d'une faute professionnelle de la part du pilote?
Vous savez, quand on est en altitude, on voit croiser des avions par dizaines, et on ne va pas demander au contrôleur aérien à chaque trafic qu'il croise.
Bah non, sauf quand on est en vol de nuit, non positionné, etc., etc. Moi, je veux bien, mais enfin, c'est assez inquiétant ce que vous me dites, en fait. Je trouve ça très inquiétant, quoi. Ça veut dire qu'on peut arriver à dire, ben, finalement, le problème n'a été abordé que dans le cadre d'un débriefing entre les deux collatéraux du vol.
Oui.
Personne d'autre n'est au courant, et après on émerge 20 ou 30 ans après en disant voilà, on a vu ça, on a tout vu. Alors on voudrait décrédibiliser les affaires, on ferait pas autrement.
On s'y prendrait pas mieux. Jean-Luc, ouais. je vais te remercier. Il y a Marco qui est en attente.
Okay. Salut,
bonne nuit à toi. Merci d'avoir appelé.
Nous avons avec nous Marco. Marco, bonsoir.
Bonsoir. J'ai écouté l'émission, hein, j'ai fait attention.
C'est une excellente chose.
À chaque mot, j'ai pesé à sa juste valeur. Eh bien, j'espère que aussi ce que je vais dire, que chaque mot sera pesé à sa juste valeur. Depuis 28 ans, ce que vous appelez les ovnis et ceux qui pilotent les ovnis sont mes amis. Je dis bien mes amis. Le prince commandant du pôle Nord, Yushkaf. C'est aussi mon ami.
Attends une seconde, on s'enregistre. Voilà, c'est bon. Vas-y.
Donc, tout ce qu'on a attendu, tous les hommes qui discutent d'OVNI, et ça commence à discuter déjà à l'époque de Jézéchiel, hein, c'est pas d'hier. Eh bien, il est furieux, le prince. Vieux, je l'ai vu au mois de mai. Il me dit, voilà un type qui s'appelle Claude Courillon.
Bon, eh ben, hein, je suis désolé, on va t'interrompre, Marco.
Pourquoi?
Ben, parce qu'on est vraiment basé sur les pilotes et sur les avions et sur l'aéronautique.
Sur les pilotes et sur les avions. Vous dites, qu'est-ce que c'est un ovni?
Alors, qu'est-ce que c'est un ovni?
Alors, et vous croyez comme ça, on va vous bombarder, ovni, boum, 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 c'est ça. Est-ce que vous pensez que vous êtes mentalement et capable de prendre ces problèmes comme il faut? Est-ce que l'esprit de l'homme de nos jours, si on nous explique par exemple que dans notre océan, des particules de la lumière d'esprit.
Marco, merci beaucoup. On va devoir vraiment passer à autre chose, qu'on a plein de trucs à dire encore et on va bientôt terminer cette émission. Non, tu vois rien. Excuse-moi, j'ai essayé de t'interrompre plusieurs fois poliment. Là, faut arrêter, quoi. Bien. Alors, Eric, Julien, tu as un témoignage à apporter à cette émission dû à ton expérience. Je vais laisser Bernard pratiquer cette interview.
Oui, Eric, tu es donc un ancien contrôleur de l'armée de l'air et tu as vécu, je dirais, une expérience intéressante en 1983. Est-ce que tu pourrais nous raconter en détail ce que tu as vécu au travers donc d'une détection radar apparemment d'un ovni?
Oui, effectivement, en matière de contrôle aérien, et d'ailleurs ce témoignage vient compléter celui des pilotes que nous avons entendus précédemment. Dans le contrôle aérien, nous sommes équipés donc de différents instruments. Il y a deux postes essentiels dans le contrôle, donc pour ma part, il s'agissait du contrôle local d'aérodrome, donc nous sommes pourvus sur des bases aériennes, puisqu'il s'agissait de la base aérienne 112 à Reims, en 1983. J'ai oublié le mois, parce que quand on a de telles expériences de contact radar, on n'est pas très attentif en réalité à la date, on a juste le souvenir de quelque chose qui est très particulier et est assez comment dire, original pour un contrôleur, à savoir que j'étais en salle d'approche, il était 11h30, mes collègues étaient partis pour le mess, pour aller déjeuner, et nous étions trois en salle d'approche. Donc la salle d'approche est un local qui est équipé de plusieurs écrans panoramiques, c'est-à-dire ronds. Hein, vous avez déjà tous vu dans les films des contrôleurs aériens qui étaient en face de postes avec des écrans orange. Hein. Il y a également des écrans verts, surtout dans le contrôle civil. Et il y a deux types d'écrans. Il y a les écrans carrés, si je puis dire. Ça, c'est pour les finales. lorsque l'avion est proche de la piste. Et les écrans panoramiques, hein, c'est l'antenne radar qui tourne sur elle-même et qui va balayer une portion d'espace qui ressemble en fait à une poire, une grosse poire, hein, c'est ce que ça s'appelle un lobe de détection. Et ce lobe de détection va envoyer une série d'impulsions qui va détecter toute forme qui se trouve dans le ciel par ce qu'on appelle l'effet Doppler. Alors, l'émission est relativement puissante en énergie. En revanche, le signal qui revient vers le radar, qui possède donc un détecteur, est un signal qui est extrêmement faible et qui, lui, est amplifié. Cette amplification passe par un module de détection qui va ensuite être transmis sur le scope radar, et c'est ainsi que nous allons avoir des points lumineux qui vont représenter effectivement les appareils qui se trouvent dans l'espace aérien qui est balayé par ce radar.
Éric Julien, je me permets de t'interrompre comme ça, en pleine explication,
vas-y.
Pour préciser aux auditeurs, on en parle depuis 23h20, qu'une autre émission sera consacrée à un sujet que tu connais bien, ils te retrouveront durant cette émission, on va parler de propulsion. Parce qu'on parle d'OVNI, d'accord, depuis 23h20, on parle de personnes qui ont vu, et surtout de personnes qui ont fait des rapports et qui ont vu tout ça regroupé par Bernard Toinel qui lui-même on a mis un bon paquet de ses interviews dans ses magazines dont il est rédacteur en chef, les VS d'Or Série. Mais on n'a pas parlé finalement de ce mode de propulsion, parce que on parle souvent d'ovnis qui vont, qui viennent, qui passent entre les avions, il se passe des choses incroyables, mais on n'a pas parlé de la propulsion et de la manière dont ça peut arriver finalement, comment est-ce qu'il serait capable de faire ces choses-là. Alors je tiens à préciser à tous ceux qui nous écoutent depuis 23h20 exactement, qu'une émission sera entièrement consacrée à ce sujet, ce sera mardi prochain, même antenne, même heure, avec Bernard Toinel, Éric Julien, qui nous parlera de sa théorie, et d'autres intervenants encore, mais ça on y reviendra. Voilà, ça y est, la parenthèse est fermée, mais il fallait le dire pendant que tu parlais.
Alexandre, je te remercie effectivement de cette précision, parce qu'aujourd'hui, je me contente de conserver la casquette de professionnel du transport aérien, et en l'occurrence d'ancien contrôleur aérien militaire et ancien pilote d'aviation d'affaires sur Biréacteur. Et je me contenterai de cette casquette ce soir. En revanche, c'est vrai que la semaine prochaine, nous parlerons de choses un peu plus étranges que de simples traces radar. Mais bon, revenons à l'expérience proprement dite. Donc en 83, 11h30, mes collègues sont partis, nous sommes trois en salle d'approche. Je suis devant un scope radar en attente d'une patrouille de Mirage F1 qui doit venir dans les 20 minutes qui suivent. Et donc j'observe l'écran radar et tout d'un coup, je vois à l'est et au nord de la base aérienne 112 donc de Reims, je vois un plot radar et... comme on voit souvent d'ailleurs hein, des plots erratiques, je l'observe sans autre considération. Quelques secondes plus tard, ce même plot radar s'est déplacé vers l'ouest sur une trajectoire précise est-ouest et toujours au nord de la base de Reims. Là, je commence à être intrigué. Et au troisième balayage radar, ce même plot s'est encore déplacé. Alors, cet objet, parce qu'il est nécessaire de l'appeler objet, puisqu'il y a détection radar, donc il y a matérialité grâce à l'effet Doppler qui est renvoyé, donc l'onde qui est renvoyée vers le module de détection, c'est donc un point qui va se déplacer d'est en ouest sur environ 120 nautiques. J'ai dû d'ailleurs changer l'échelle du radar de 50 à 100 nautiques pour pouvoir le suivre. J'ai entre-temps appelé...
En kilomètres, si tu peux.
Oui, pardon. Oui, donc il suffit de multiplier par 1,852 mètres. Donc on a à peu près 220 kilomètres, nous allons dire, de poursuite de traces radar. Et j'ai appelé immédiatement le radariste, qui est le technicien spécialiste du matériel du radar, et pour lui demander s'il n'y avait pas un problème dans le module de détection, il me répond que non. Alors là, j'ai le réflexe immédiat de couper ce qu'on appelle le transpondeur, c'est-à-dire le radar secondaire. Vous savez que les radars ont deux types d'informations, l'écofixe, qui est dû à l'effet Doppler proprement dit, hein, qui est la base même de la technologie du radar, et le radar secondaire, qui est en fait l'affichage du transpondeur qui est émis par les avions, donc par l'affichage fait par le pilote à bord de son vol, de façon à être identifié et ne pas être confondu avec un autre appareil. Donc je coupe le radar secondaire de façon à m'assurer qu'il ne s'agit pas éventuellement d'un code transpondeur que je n'aurais pas pu afficher ou en tout cas qui aurait pu être l'objet d'une erreur de détection. Ce plot primaire est large, brillant, comme aiment les voir les contrôleurs aériens pour bien identifier leurs avions. Et ce plot va passer si vite que je dois faire une règle de 3. Il faut préciser que le radar tourne en 7 secondes et demie par tour. Et j'ai donc dû faire cette règle de 3 pour conclure rapidement que l'avion, entre guillemets, en question, aller à 28 000 km/h. Rien que ça, voilà, effectivement, sachant que les meilleurs, comment dire, les meilleures fusées ou missiles allaient un peu plus de Mach 3. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était en 1983, où en tout cas, nous n'avons pas été informés de vitesses largement supérieures, ou en tout cas, de vitesses qui pouvaient frôler les Mach 27 ou 28. Alors il faut préciser que ce genre de phénomène hein, de détection à ce genre de vitesse, aux alentours de 30 000 km/h, ce n'est pas le seul dans le monde. Hein, il y a eu d'autres détections radar autour de 27 000, autour de 31 000 km/h. Alors je ne peux pas donner les références ici parce que je ne les ai pas en tête, mais en tout cas je les ai lues. Toujours est-il que j'avais une position un peu ambiguë dans la mesure où j'étais seul à voir ce phénomène, puisque j'avais deux collègues autour de moi, mais le premier d'entre les deux était au téléphone, et le second était en finale, enfin, était en train de contrôler un appareil qui était en finale sur la piste. Donc, c'est assez frustrant, et donc on n'a pas envie du tout, quand on est seul et quand on est contrôleur aérien militaire, de faire un rapport sur ce type d'événement, parce que, d'une part, on pourra mettre votre parole en doute, et même vos capacités, et puis par ailleurs, ça apporte assez peu dans la mesure où, dès lors que nous aurions déclenché ce qu'on appelle un scramble, c'est-à-dire un appareil, un chasseur, pour aller à la recherche ou la poursuite.
Un décollage sur alerte.
Un décollage sur alerte, tout à fait. Pour aller à la poursuite d'un tel appareil, il serait déjà sorti du territoire national avant même que les roues ne soient sorties de la piste. Donc il y avait bien entendu inutilité d'une telle alerte. Enfin, toujours est-il que ce genre de phénomène n'est pas rare, hein, il ne se passe pas tous les jours bien entendu, mais il n'est pas rare et mes collègues contrôleurs, y compris les contrôleurs aériens militaires régionaux, voient de temps en temps effectivement ce genre de phénomène. Alors il y a un deuxième témoignage, mais peut-être Bernard voulais-tu poser une question ou en tout cas faire des commentaires?
Oui, bon, la première question qui me vient à l'esprit c'est l'éco-parasite. Parce qu'on n'avait pas là justement une inversion de température, un écho un peu fantôme qui aurait pu jouer un petit peu au chat et à la souris sur ton écran.
Oui, alors effectivement, les arguments sont nombreux pour indiquer qu'il est possible que nous puissions voir autre chose qu'un véritable appareil, qu'il soit ovni ou non du reste. Mais les contre-arguments sont nombreux aussi. Alors, d'abord, les inversions de température sont dues à des masses nuageuses et, par définition, les masses nuageuses ne se déplacent pas à 28 000 km/h. Le deuxième point, c'est que, en tant que contrôleur aérien expérimenté, on sait tout de suite définir ce qu'est un écho fixe. Hein, ce sont des échos qui sont très proches de l'antenne radar qui tourne et qui sont effectivement des échos qui sont émis par les obstacles naturels ou artificiels autour de la base. Mais cela, on les élimine et de toute façon, l'objet en question est passé au plus près à 15 nautiques, c'est-à-dire environ 25 km de la base, au nord donc de cette base. Et puis, il existe aussi ce qu'on appelle des échos erratiques. Alors, sur le SRE, qui est le Surveillance Radar Equipment de l'époque, hein, c'est un qui aujourd'hui est une génération dépassée, hein, on a des radars plus performants, il est clair que nous avions aussi des échos erratiques, mais leur forme était assez particulière. Ils étaient concentriques, hein, la plupart du temps, ça ressemblait à de gros pavés, et en aucune manière, ils ne laissaient de rémanence tel que cet écho-là en a laissé. Alors la rémanence, c'est un, comment dire, c'est un peu un lever de doute. C'est la trace de, comment dire, de l'objet, de l'avion qui se déplace et qui va rester sur votre écran de façon à bien estimer ou évaluer à la fois son cap, sa vitesse et effectivement s'il est en virage ou non. Alors cette rémanence, bien entendu je l'ai vue, ce qui a confirmé pour moi en tout cas la validité, la matérialité de cet objet. Et donc, incontestablement, cet objet était bien un objet qui était donc dans le ciel. Alors par contre, sur l'altitude, il m'est impossible de l'indiquer parce que cette génération de radars ne permettait pas d'avoir une indication automatique hein, par un calcul savant du module de détection. Donc je ne pouvais pas savoir s'il était à 300 mètres d'altitude ou au contraire à 10 km, ça c'était impossible. En tout cas, pour ceux qui auraient la tentation de penser à un satellite, hein, il faut savoir que le lobe de détection radar d'un SRE donc, de l'époque, pour du contrôle local d'aérodrome, ne pouvait aller qu'au dixième de l'altitude la plus basse qu'un satellite peut avoir. Hein. Donc on est quand même, il faut se faire un schéma d'atmosphère en coupe pour bien comprendre qu'on est très très loin de la détection d'un satellite.
Donc c'était pas un missile, est-ce que c'était pas un aérolithe ou un bolide qui aurait pu être d'origine métallique par exemple, qui aurait pu laisser un écho solide comme il faut quoi.
Oui, alors on peut effectivement se perdre en conjecture sur la nature de ce que j'ai vu. Je n'ai pas de certitude quant à sa nature, si ce n'est que c'était un objet qui s'est déplacé de façon rectiligne à 28 000 km/h et qu'il avait une rémanence dans son sillage. C'est la seule chose que je puis dire. Il serait, ce serait trop spéculatif que d'en définir la nature. En revanche, dire que c'est un objet qui provient du ciel, par exemple une étage de fusée qui descend dans l'atmosphère, là encore, c'est très difficile de le dire, d'autant qu'on peut estimer que la combustion des objets qui viennent du ciel et qui serait un artefact artificiel et de construction humaine, donc voit sa combustion très très haut en altitude, compte tenu du fait que la vitesse de satellisation de tels objets est de l'ordre plutôt de 8 km/s. Et donc très très haut, et les effets thermodynamiques sont énormes.
Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ton cas me rappelle celui d'un radariste civil, celui-là, chilien, que j'ai pu interviewer à Santiago de Chili en 2000, fin 99 d'ailleurs, et lui, le 22 novembre 78, à peu près vers 2h du matin, lui, il avait vu un objet qui avait en fait parcouru et traversé son écran radar à plus de 9 000 km/h.
Oui, encore une fois, il n'est pas rare que les contrôleurs aériens voient des choses sur leur scope. Alors, je dois préciser que la différence essentielle, je dirais, entre les contrôleurs aériens militaires et les contrôleurs aériens civils, c'est que la plupart du temps, et même de façon quasi permanente, les contrôleurs aériens civils ne travaillent quasiment, en tout cas c'est le cas pour les contrôleurs en route, qu'avec des transpondeurs, avec des étiquettes, qui vont définir et identifier clairement l'appareil qui entre dans leur zone de contrôle. Et donc, ils débranchent en quelque sorte le radar primaire et ils ont assez peu d'accès à ce radar primaire parce que ça pourrait effectivement créer des problèmes de procédure. Ben, toujours est-il que des objets qui vont à 9 000 km/h comme l'a vu ce contrôleur aérien, ce sont des phénomènes qui sont relativement banaux, si je puis dire. Par contre, on ne peut pas dire qu'ils arrivent tous les jours. Mais bon, clairement, les contrôleurs aériens militaires n'ont pas, ont finalement cette chance de pouvoir voir des plots primaires, mais par contre, non pas du fait de leur devoir de réserve, ne sont pas autorisés à divulguer l'information.
Dis donc, il s'en passe de drôles de choses sur la base 112, d'après ce que j'ai pu apprendre comme ça. Un an après, vous avez eu une visite.
Alors effectivement, mon plot radar était bien fade, en réalité, face à la manifestation spectaculaire d'un autre objet qui, lui, a été vu par l'un de mes collègues, alors qui, pour le coup, avait 20 ans d'expérience dans le métier, et qui a vu, vers 22h, c'était un soir d'été en 1984, qui a vu un objet qui s'est approché de la base aérienne, mais si près qu'il était entre 5 et 10 mètres du sol, à proximité du centre de commandement de la base aérienne 112 à Reims, et qui est resté une dizaine de minutes. Alors, il a décrit cette soucoupe, parce qu'il faut dire que cet objet avait une forme soucoupique, avait des lumières vertes et rouges qui étaient autour, donc à la périphérie de la soucoupe volante. On peut dire qu'elle était volante puisqu'elle était en altitude, et qui tournoyait lentement. Et au début, d'ailleurs, mon collègue, que bien entendu je ne citerai pas, pensait qu'il s'agissait de lumière tout à fait normale. Il devait y avoir une fête sur la base aérienne l'information visuelle était sans grand intérêt, à ceci près que l'information en question a duré pas mal de temps, et il a donc commencé à scruter ce qu'il voyait à travers des jumelles, puisque vous savez qu'à la tour de contrôle, la position qu'il occupait d'alors, c'est donc à la vigie, hein, tout en haut. Il peut effectivement voir tout ce qui se trouve autour relativement loin, et nous sommes équipés de jumelles pour vérifier les trains d'atterrissage des appareils qui se présentent et confirmer donc l'autorisation d'atterrissage dans l'hypothèse la plus courante et probable de l'ouverture du train d'atterrissage. Eh bien, il a vu effectivement cette forme. Alors, il faut savoir que le GEPAN d'alors est venu quelque temps plus tard et a donc effectué une enquête, a interrogé le contrôleur aérien militaire, a interrogé ses collègues. Bref, nous avons été, pas tous interrogés, mais en tout cas ceux qui étaient là présents au moment des faits. Alors, notre contrôleur en question a quand même demandé, et réflexe assez curieux, je vais vous dire pourquoi dans un instant, a quand même demandé à ses collègues du radar, qui étaient donc en bas, au rez-de-chaussée, s'ils ne voyaient pas un écho. Un écho qui pouvait effectivement rapprocher l'observation qu'il était en train de faire. Mais, curieusement, un contrôleur qui a 20 ans d'expérience dans le contrôle aérien militaire sait absolument que ses collègues ne peuvent pas voir un tel écho, puisqu'ils se trouveraient dans les échos fixes, c'est-à-dire ceux qui sont à proximité de l'antenne radar, obstacles naturels ou artificiels, comme des bâtiments ou des arbres. Donc, le réflexe qu'il a eu, tellement il était choqué et surpris par sa vision, son observation, a bien démontré qu'il avait perdu finalement des repères et des réflexes de contrôle aérien. Et donc, le GEPAN lui a, a tenté de lui faire dire que c'était peut-être des étoiles, histoire de le repousser dans ses retranchements. Mm-hmm. Or, il se trouve que l'objet en question avait pour arrière-plan une petite colline, et que cette petite colline était parfaitement inhabitée, et qu'il ne pouvait pas y avoir effectivement de confusion avec une étoile qui se trouve à la hauteur d'une colline, et ni même phénomène lumineux tournoyant à proximité de la colline. Alors, c'est un petit peu inquiétant, si je puis dire, parce que ce rapport n'a jamais été présenté, bien entendu. Alors, inquiétant, oui et non, parce qu'on peut quand même considérer qu'il y a légitimité de la part de l'autorité militaire de ne pas diffuser ce genre d'informations. Ça fait donc bientôt 20 ans, ou à peu près 20 ans, que les faits ont lieu. Mais il faut savoir que on ne peut pas considérer que tout ce qui est diffusé par le GEPAN aujourd'hui représente la totalité des observations. Bon, enfin, ça, je pense que vous l'auriez tout deviné.
C'est très intéressant, c'est vraiment passionnant toutes ces histoires qui sont mises un petit peu sur la place publique, parce que en fait les gens ignorent. Hein, les gens ignorent totalement ce qui se passe. On parle de conspiration, on en parlera un peu plus tard. Il n'y en a pas, mais je dirais qu'il y a un secret qui repose sur, je dirais...
Il n'y a pas conspiration, mais s'il y a secret...
Ça ne veut pas dire conspiration, secret.
Alors, ben ça veut dire qu'il y a des gens autorisés qui savent.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait, je dirais, complot, conspiration, qu'il y ait véritablement, je crois que c'est lié à l'impuissance, je dirais, des moyens que nous mettons en œuvre, parce que ce sont des budgets conséquents, ça joue sur des sommes importantes. Je dirais que le vrai problème qu'on a décrit par Eric, c'est tout à fait une impuissance totale de la part des militaires
oui.
et de leur système.
Oui, bien sûr, mais je me souviens parfaitement qu'il y a 4 heures maintenant, quand on parlait de Roswell, tu disais que on était presque sûr que de toute façon il s'était passé quelque chose.
Ouais.
S'il s'est passé quelque chose, si ça a été caché, et si ce sont des personnes autorisées qui ont pris les décisions de cacher ces choses pour eux-mêmes, de leur côté, continuer à étudier, pourquoi pas, ce qu'ils avaient trouvé, moi, c'est ce que j'appelle une conspiration.
Alors, oui. Si vous voulez bien, je vais ajouter un petit mot sur la psychologie, je dirais, du militaire. Il y a, c'est vrai, aussi la peur du ridicule chez les militaires. Hein. Il y a, nous sommes tous des humains, même si nous avons un uniforme. Et les pilotes militaires n'ont pas vocation à se faire ridiculiser sur la fréquence en annonçant qu'ils sont en visuel d'un objet non identifié. Même si du reste, les seules occurrences où cette observation pourrait être décrite à la fois à la radio et dans un rapport ultérieur, c'est des occurrences manifestement où on pourrait évoquer un Hermis, hein, à savoir qu'il y a un rapprochement entre l'objet non identifié et l'avion du pilote militaire, auquel cas il faut effectivement faire la recherche des responsabilités de cette quasi-collision, et bien entendu auquel cas il faudrait en déterminer la nature. Mais globalement, personne n'a envie de se faire ridiculiser. Toutefois, c'est vrai que les autorités militaires commencent à accepter quand même ce phénomène, et donc enregistre les dépositions, mais malgré tout elles sont relativement rares, sauf à effectivement avoir depuis lors, puisque je ne suis plus dans l'armée de l'air ou dans les armées de façon générale, sauf depuis lors à avoir effectivement diffusé une culture de l'OVNI qui est prise, il est vrai, beaucoup plus au sérieux aujourd'hui. Donc la question de la conspiration ne se pose pas vraiment, c'est surtout un problème de nature psychologique à mon sens.
Alors, moi, je reprendrai là, vis-à-vis d'Alexandre, parce qu'Alexandre, tu as un témoignage d'un de tes contacts qui a vécu un petit peu un problème. Alors, je crois que c'est tout à fait dans...
C'est un témoignage en deux parties. Il nous parle tout d'abord d'une première expérience et puis d'une autre, justement, lorsqu'il était sous les drapeaux, non pas engagé, mais par obligation, appelé. Merci, je cherchais le mot. Je vais diffuser ça maintenant.
Hein, ça serait bien.
On le diffuse maintenant, c'est Franck qui était avec nous hier et que nous avons enregistré dans le studio, comme quoi on n'a pas chômé hier. Franck, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Franck, vous êtes avec nous ce soir car vous avez un témoignage à apporter.
Oui.
Sur un événement vécu, oublié peut-être, ou en tout cas mis de côté.
Ouais. Un petit peu mis de côté, oui.
Alors déjà, cet événement a eu lieu quand?
Ça a eu lieu en 1979.
Et en 1979, que s'est-il passé?
Bien, j'étais un jeune soldat appelé dans l'armée française.
Volontaire? Appelé?
Bon, appelé, oui. Pas franchement volontaire à cette période-là, mais bon, c'était pas trop la tendance. Enfin voilà, c'était comme ça.
Et qu'avez-vous vu?
Bon, au départ, pas grand-chose. J'ai pas vu le temps passer, déjà. Et non, mais ça, c'est pour faire de l'humour un peu, mais en fait, ça s'est passé un peu bizarrement, en fait. J'avais déjà eu l'occasion d'avoir vu quelque chose d'un peu étrange en journée. en plein jour avant de partir à mon service militaire. Et puis, en fait, ça m'avait un peu surpris, ça m'a laissé un petit peu perplexe. Et j'avais été témoin d'un, je sais pas trop comment appeler ça, mais enfin bon, à l'époque, on disait un peu vision d'OVNI, quoi, dans le ciel. Et j'étais, donc ça se passait en plein jour, en fin d'après-midi, et on était quelques-uns à regarder... le ciel, au moment où quelqu'un nous a dit regardez, il y a quand même quelque chose d'étrange qui se passe et tout, et il y avait une grosse lumière dans le ciel, très haut, environ à 10 000 pieds d'altitude, ce qui représente à peu près 3000 mètres en gros, quoi, enfin vision de non professionnel au sol, quoi. Et donc j'ai pu remarquer avec d'autres collègues de travail qu'il y avait pas franchement un objet, mais une grosse lumière dans le ciel qu'on pouvait imaginer de grosse taille.
Vous étiez beaucoup à ce moment-là à observer cette chose ?
On était, non, pas énormément. On était 4-5 à regarder ça avec étonnement. Et ce qui nous avait, disons, interpellé dans un premier temps, c'était qu'il y avait beaucoup d'avions militaires qui tournaient autour. Là, ça se passait dans la Sarthe. Et donc il y avait beaucoup d'avions militaires qui tournaient autour de cette chose. Et c'est passé le phénomène suivant, c'est que soudainement les avions qui décrivaient un grand cercle dans le ciel de plusieurs kilomètres de rayon se sont mis tous ensemble à aller vers le centre du cercle où se trouvait cette lumière qui était blanche. Bon, c'est vrai que il y avait le soleil était un peu bas quand même, et le ciel était très bleu foncé, enfin c'est le soleil d'automne, quoi. Enfin, ciel d'automne, pardon. Et là, à ce moment-là, les avions se sont mis à le chercher, quoi, en allant vraiment dans sa direction, tous ensemble, comme une grande étoile, quoi. Et au bout d'un moment, ça nous a surpris parce qu'on a commencé à voir, comme des tirs qui se passaient dessus, comme si ça tirait dessus. Hein. Je sais pas comment. Mon souvenir est un peu vague parce que bon, c'est vrai que bon, on avait regardé ça sans en étant étonné, bien sûr, mais sans idée précise et préconçue du phénomène auquel on était témoin, quoi. Et en fait, c'est que plus les avions s'approchaient de cette chose, de cette lumière, plus la lumière diminuait. Et elle rapetissait. Et c'est ce qui est marrant, à l'époque, c'était des Fougas Magister qui étaient dans le ciel, des avions de l'armée française, des avions d'entraînement. Et en fait, bon, ils sont pas très très rapides, ces avions. Hein. C'est pas, enfin, comparativement à ce qui se fait maintenant. Et plus ils approchaient, et plus ils tiraient dessus, plus ça diminuait, ça se réduisait jusqu'à disparaître complètement, comme si tout d'un coup, je sais pas, si ça passait en hyperespace, on pourrait imaginer ça. Mais disons que ça devenait transparent, comme si ça devenait invisible, quoi. Mais en fait, il n'y avait pas de déplacement. C'est-à-dire que cet objet était fixe. Donc, enfin, cet objet, cette lumière, du moins, cette lumière était fixe. Donc, on entend toujours des témoignages de choses qui bougent, qui s'envolent, etc. Moi, ce que j'ai vu, c'était fixe. Donc, bon, rien de... Et alors, plus elle réduisait, plus on ne savait pas trop si elle disparaîtrait, puisque, en fait, elle réduisait, mais en même temps, après, on avait le doute de savoir si ça réduisait ou pas. Enfin, les commentaires au sol, sur le lieu, on disait, tiens, quand même, c'est étrange. Ah, regardez, ils attaquent. C'est bizarre, ça disparaît. Et puis, on en est resté là. Mais, ce qui est très drôle, c'est que, bon, ça s'est passé dans la région de Montoire, dans un petit village qui s'appelle Bessé-sur-Brec, rien d'extra, très extraordinaire. Enfin, bien que la région soit jolie. Et le même soir, en rentrant chez moi du travail, vers 11h, minuit, j'allume la radio nationale, France Inter, donc, et je tombe sur les informations qui racontent qu'un étrange phénomène s'est passé à 15 km de là, à Montoire, où des centaines de personnes auraient vu, au même moment, de longs cigares volants blanc dans la lumière noire, mais une grosse quantité, je me souviens plus, une dizaine, enfin, je sais pas exactement. Et tous ces gens-là sont sortis dans la ville en même temps et ont vu ce phénomène. Et alors, bon, toujours dans le traitement radio, c'est grand phénomène hallucinatoire, enfin bon, on connaît le truc, quoi. Et c'était marrant, et j'ai rencontré une seule personne de Montoir quelques jours plus tard qui m'avait dit, oui, qu'effectivement, elle avait participé, enfin, elle avait vu le phénomène, quoi.
Et alors, les autorités de cette base militaire, comment ont-elles réagi? Elles ont fait
J'en ai aucune idée.
Un meeting après?
Non.
Il y a une version officielle?
Non. Puis la base militaire en question, enfin, a supposé que c'était celle-ci, à cette époque. Vu la distance, c'était une base militaire d'entraînement qui devait se situer dans la Touraine, donc en région de Tours. Donc on peut supposer, parce que vu la distance, c'est pas trop loin, c'est à peine 20 minutes de vol, hein, avec un avion qui vole à 600 km/h, en 20 minutes on est dans cet endroit. Donc je suppose que, de toute façon, l'armée, on l'a longtemps appelée la grande secrète, je crois qu'elle mérite toujours son nom, bien que maintenant il y a plus de communication avec l'extérieur, à cette époque-là, je peux te dire que la communication se faisait pas. Hein.
Alors, 23 ans après, vous expliquez ce phénomène?
Non, moi j'explique rien par rapport à ça, enfin bon... Ce qui m'a été révélé par la suite, en fait, c'est que bon, il y avait bien ce genre d'objet qu'on pouvait observer comme ça, ça pouvait exister vraiment, quoi. Parce que là, jusque là, bon, j'étais resté un petit peu dans l'expectative, quoi. Mais un an après, lors de mon service militaire, en fait, je reviens à l'histoire du début, je me suis trouvé être de garde, comme ça se faisait pour les jeunes soldats, emmenés dans des divers endroits de France, soit des réserves de munitions ou des sites de l'OTAN ou des choses comme ça, à faire des gardes de nuit, quoi. Et donc on vous donne un fusil, vous faites un tour à pied 2-3 fois par nuit et puis après vous allez dormir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, un soir de garde, comme ça, en faisant le tour d'une station en campagne, est arrivé le phénomène suivant. C'est que, il faisait évidemment nuit, hein, il devait être genre 1h du matin, 2h peut-être, je ne sais plus. Et on est tombé... plus ou moins face à face avec un objet lumineux qui était par contre là au sol et au milieu de la base et très très étrangement sur enfin de la station et très étrangement posé exactement à l'endroit d'un héliport fait de tôle métallique trouée dont on sert pour faire circuler les camions pour éviter qu'ils s'enfoncent dans la boue. Et donc, la lumière était posée dessus. C'était très, très lumineux. Et en même temps, relativement, étrangement discret. C'est ça qui est assez étonnant. Et on voyait donc cette lumière. On n'était pas bien rassurés. On était deux. Moi, j'étais avec un maître chien. Le chien, bizarrement aussi, était étrangement calme. Et finalement, on s'est vraiment regardé avec le type, là, et on s'est demandé ce qui se passait, quoi, enfin, ce à quoi on avait affaire. Et en fait, on a commencé un petit peu à avoir peur à partir du moment où on s'est dit que une lumière comme ça, c'était pas quelqu'un qui nous jouait un gag, quoi, c'était quelque chose de pas normal. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait donc un genre de gros talkie-walkie assez lourd et on a déclenché ce qu'on appelait une alerte, c'est-à-dire qu'on a prévenu le poste de garde en leur disant que il y avait quelque chose d'anormal dehors et que nous on bougeait pas parce que d'abord on n'osait pas bouger et que il fallait qu'ils regardent. Le poste de garde étant à peu près à 500 mètres de l'endroit, ils pouvaient très bien voir ce qui se passait. Et là, au poste de garde, la réaction était beaucoup plus vive que la nôtre. En fait, ils ont à moitié paniqué et ils ont vraiment ce qu'on appelle dire faire péter une alerte, quoi. Ils ont paniqué, ils ont prévenu tout le monde, etc. Et là, là, les gens qui étaient à moitié endormis dans leur bureau et tout ça, tout le monde est sorti. Donc, plus ou moins, tout le monde a vu, plus ou moins de loin, de près ou de loin, le phénomène, quoi. Et je peux vous dire qu'il n'y avait absolument pas de bruit. C'était d'un silence total. On entendait les insectes, enfin, la vie de la forêt. On était quand même dans un endroit un peu retiré. On entendait quand même le bruit de la nuit, quoi, on va dire, hein, pour résumer. Et ce qui est étrange, en fait, c'est que, bon, bah, comme ça faisait pas de bruit, tout le monde réagissait pas vraiment à la même vitesse, quoi. Et personne n'a vraiment essayé de s'approcher de la chose, quoi. Et puis, soudainement, enfin, je sais pas, ça a duré, je peux pas dire l'espace-temps, peut-être un quart d'heure, peut-être une demi-heure, hein, que c'est resté là comme ça. Nous, on attendait, il faisait pas franchement chaud, c'était genre en automne, hein. Et donc, on attendait comme ça, c'est savoir qu'est-ce qu'on allait faire, quoi. En plus, on n'avait pas d'officiers sur place, on avait que des sous-officiers qui étaient des types un peu moyens, quoi, on va dire, un esprit faible, et, enfin, c'est l'armée, quoi. Et bon, eux n'ont pas réagi vraiment très intelligemment, ils ont dit ouais, c'est quoi cette affaire, etc. Et la chose est partie. Et la chose est partie, alors là par contre c'est parti à la verticale et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ce qui est marrant c'est que c'est parti très vite et très silencieusement, on n'a rien entendu. Et là on est resté tous la bouche ouverte en haut, quoi, hein, on ne savait pas quoi dire. Et avec un petit frisson quand même dans le dos, d'autant que bon, nous on était les premiers sur place et on n'était pas franchement rassurés. Et la suite de l'histoire, eh bien, c'est que quand on a été observé ce qui s'était passé à l'endroit où la chose était posée, c'est que les plaques d'acier étaient légèrement fondues, même bien fondues. Et en fait, la plaque de tôle qui avait des trous, ben, n'en faisait plus de trous. C'était carrément un bout de ferraille fondu sur le sol. Mais bon, ça fait un héliport, ça fait à peu près 5-7 mètres sur 7, quoi. C'est assez grand. Et donc voilà, la chose était fondue.
Mais alors, uniquement des sous-officiers à ce moment-là, réaction obligatoirement officielle le lendemain ou le soir même?
Non, pas tout à fait. En fait, il a fallu attendre le lendemain l'arrivée d'un capitaine qui gérait l'endroit et qui logeait chez lui, j'imagine, et qui nous a rejoint en nous posant quelques questions sur ce qu'on avait vu, nous, les principaux intéressés, les deux premiers principaux intéressés qui étaient là sur place. Et en fait, il a dit, bon, très bien, je vais quand même prévenir, je sais pas, la hiérarchie, quelque chose. Enfin, je sais qu'il connaissait beaucoup de gens, il était assez influent. Et effectivement, deux jours après, pas le lendemain, le surlendemain d'histoire, on a eu la visite de personnes, moitié civiles, moitié militaires, qui nous ont longuement posé des questions sur ce qu'on avait vu, et les questions étaient de plus en plus précises. Tout le monde a été questionné, hein, on était à peu près à peu près une centaine sur la station, et en fait on a été pratiquement tous questionnés, mais quand même plus avant moi et cette autre personne qui avait été les témoins directs de cette histoire, on a été un peu plus questionnés que les autres, ouais. Et bon, à la fin ça m'énervait parce que je trouvais ça ridicule d'avoir à répéter toujours un peu la même chose. On serait cru dans un mauvais film policier. Et bon, les types étaient jamais toujours les mêmes, parfois ils étaient deux, parfois ils étaient tout seuls, parfois ils étaient très copains, des fois ils étaient un peu plus cons, mais ça c'est pas dur dans l'armée. Ça a fini que, à force d'énervement, on leur a répondu que bon, on n'avait rien vu, si ça leur faisait plaisir, comme on avait vu, si ça leur faisait plaisir, et si c'était ça qu'ils cherchaient. bon, on est jeune dans ces moments-là et on ne se rend pas bien compte de, toujours de ce qui se passe. Mais enfin là, c'était quand même un petit peu évident parce que les mecs étaient un peu lourds. C'est qu'au bout du compte, on cherchait à nous faire dire ce qu'on n'avait pas dit, quoi. C'est-à-dire avoir rien vu. Et puis même, de toute façon, moi, j'en ai jamais vraiment reparlé après parce que je me suis dit, si je raconte ça, on va me prendre pour un menteur. Ça n'a aucun intérêt. Si même je raconte ça à des gens que je connais bien, ils vont croire que j'affabule un peu, que je me la joue. Et bon, là, c'était pas le cas, j'en ai rien à fiche. Et puis, au bout du compte, ben, je préfère oublier l'histoire, tout en m'intéressant toujours à ce genre de phénomène. Quand j'entends parler, ça m'excite toujours d'écouter la télé, quand on un témoignage, quelqu'un qui a vu un truc, comme à la radio d'ailleurs, c'est très sympa. Enfin, c'est pour ça que là, maintenant, bon, y a pas mal d'années de passé derrière ça, hein, et puis je m'en fiche un peu, puis de toute façon, ça n'a pas d'importance, il y a des milliers de gens qui ont vu des tas de trucs. Et puis, je pense que, de toute façon, il y a bien une raison à tout ça. Alors, évidemment, on peut imaginer que dans le secteur militaire, il y a un truc qui est très compréhensible et qu'on nous a bien expliqué au départ, c'est qu'on peut craindre l'espionnage militaire. Voilà. Et donc, bon, c'est peut-être la raison pour laquelle on vous a un peu cassé les pieds.
Franck, je vous remercie pour votre témoignage.
Je vous en prie.
Au revoir. Voilà, Franck était dans le studio hier soir. On a enregistré cette interview. T'as déjà entendu ce genre de choses, Bernard ?
Je dirais des dizaines de fois. C'est ça le problème. C'est toujours récurrent, c'est toujours la même chose. C'est franchement une continuité. Il n'y a pas un témoignage qui ne se ressemble pas. C'est vraiment c'est flagrant. Hein. Alors, bon, on parle de secret militaire, on parle un petit peu de secret gouvernemental, de secret par pays. Alors, on va peut-être en profiter pour offrir une cerise sur le gâteau à nos chers auditeurs qui sont effectivement désireux de savoir et qui ont posé des questions, je l'ai vu sur le web tout à l'heure. Que pensent les autorités officielles et qu'est-ce qu'ils disent en dehors de leur langue de bois officielle? Eh bien, on va leur offrir un document. Ce document
qu'on promet depuis 23h20.
C'est
on a
vrai,
débordé
ouais,
sur
ouais,
l'horaire,
ouais.
Mais il y a tellement de choses à dire.
C'est riche, c'est tellement riche. Hein,
je rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine tout de même, quoi. Mais sur un sujet bien précis.
Absolument.
Mais quand même, on se retrouve la semaine prochaine. Je le rappelle, on va parler de propulsion. Si OVNI il y a, comment expliquer cette disparition, cette rapidité d'action dans les airs? On va parler propulsion la semaine prochaine.
Et de prototypes, forcément. Hein. Donc la technologie mise au service, si je puis dire, des gouvernements et des militaires du monde entier. Alors, donc ce document, il a une histoire. On l'avait réalisé pour faire un déjeuner-débat. Un déjeuner-débat que nous avions organisé, tout au moins que mon directeur avait organisé, au Fouquet's. Donc c'est grand restaurant des Champs-Élysées, et tout le monde avait répondu d'accord. On va se rendre à cette table ronde, on va discuter à bâton rompu du phénomène OVNI, et là, on a véritablement des réponses aux questions que tout le monde se pose. Finalement, j'ai vu sur le web, et je crois que là, on va en avoir plus que le bon Dieu peut en bénir, on va avoir aussi certaines révélations. Pour le contexte, ça se passe en février 1998. Alors, écoute, moi je pense que c'est une excellente conclusion.
On ne diffusera pas en entier. Hein.
Ah, malheureusement, mais bon, je dirais que là, il y aura quand même pas mal de dialogue. Alors, on sera un petit peu indulgent, hein, parce que c'est un déjeuner, donc il y a un peu de bruit de couvert, il y a un peu de bruit de verre. Mais c'est vraiment un dialogue spontané, il n'y a pas de langue de bois. Et je répète encore une fois, ce sont des autorités officielles, civiles, militaires, scientifiques. Ils vont se présenter eux-mêmes, on va les...
Ils vont se présenter.
Oui, tout à fait. Donc, on dit rien, on passe le document brut de pomme, et alors là, moi, j'ose dire, accrochez vos ceintures.
Merci beaucoup, Bernard Toinel, merci pour ta présence, hein, ce soir de 23h20 jusqu'à il est 4h05 du matin. La nuit est loin d'être terminée. Merci Eric. Eric Julien avec nous depuis aussi 23h20 qui s'est tué et qui est resté à côté, en train d'écouter l'émission.
Merci, bonsoir, et donc à mardi prochain pour la propulsion des ovnis.
Pour la propulsion des ovnis, encore un programme.
Et merci à toi, Alexandre, et merci à Juliette qui a eu le courage de nous écouter jusqu'à cette heure aussi tardive.
On se retrouve dans un instant avec un document inédit sur Radio IC Maintenant. Ce sera jusqu'à 7h du matin. Les bandes de petits vénères, l'intégralité du document, on la diffusera mardi prochain, promis.
Radio IC et Maintenant. 95.2. J'arrête quand je veux.
Animé et circonstancié. Bon, le but de cette opération, c'est que nous allons publier dans les semaines qui viennent hors série du magazine VSD relatif au phénomène volant non identifié. Et alors phénomène évidemment qui revient de façon assez récurrente dans la presse à dose de grands dossiers tapageurs faits de révélations qui sont à chaque fois toujours de plus en plus spectaculaires. Alors c'est toujours les dossiers secrets de l'US Air Force, ce que le Pentagone nous cache, etc. etc. Donc, ce que j'ai dit donc à nos émérites spécialistes aéronautiques, c'est-à-dire Bernard Toinel, qui continue à collaborer avec VSD, à qui on a travaillé pendant très longtemps, et je pense avec lequel on fait du bon travail en matière en tout cas d'aviation et de choses de l'air. Je lui ai dit, bon, moi je veux bien qu'on refasse encore un dossier technique effectivement sur les ovnis, parce que d'abord c'est quelque chose qui me passionne. On sait qu'il y a un public, clair, on sait que ça passionne également les gens, mais il y a tellement surenchère, je dirais, de fausses photos, de faux témoignages ou de documents sur lesquels évidemment il est impossible de prouver, d'apporter la moindre caution scientifique, que je veux bien qu'on se lance dans l'aventure de production, je dirais, d'un numéro de 60, 80 pages, d'un dossier assez fourni. Mais je voudrais qu'il y ait, je dirais, en tout cas un débat, si ce n'est un débat d'experts, c'est-à-dire qu'on essaye, disons, autour d'une table, de mettre un certain nombre de scientifiques de façon, je dirais, tout à fait loyale, qui accepterait de débattre du problème, hein, pour qu'on ne nous assène pas à chaque fois ces grands dossiers spectaculaires sur lesquels on n'a strictement aucun recul, puisque effectivement on regarde des photos d'objets, on dit que ça a été observé dans le ciel de Mexico, et puis sorti de là, on est incapable de se faire la moindre religion sur la question. Donc le rôle, et en tout cas le mien en particulier dans cette autour de ce débat, puis je vous dirai après comment je pense qu'on peut essayer de l'organiser, c'est évidemment de jouer le rôle un peu du sceptique, hein, forcément, c'est-à-dire en fait du journaliste, quoi, hein, c'est-à-dire qui n'est pas là pour croire effectivement aux chimères, ou en tout cas croire à l'impossible, mais essayer de regarder aujourd'hui si, en l'état actuel des phénomènes que vous auriez été amené à observer, on peut faire la part des choses entre ce qui est balayé par, on va dire, l'orthodoxie scientifique telle qu'elle a l'air, telle qu'elle s'exprime parfois dans un certain nombre de publications, et si, je dirais, le balayage permet d'ouvrir la porte vers, je dirais, d'autres champs d'explication. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, le but de cette réunion. J'espère que mes amis autour de la table, qui sont évidemment bien plus pointus que moi sur la question, aideront à lancer le débat et à débattre. L'enregistrement, là, c'est simplement, donc cet enregistrement scientifique, c'est simplement pour qu'on ait une qualité de son sur laquelle on puisse retravailler, hein, et non pas pour être diffusé dès 14h30 en boucle sur France Info. Hein, ne vous inquiétez pas, simplement pour qu'on ait des documents de travail qui soient utilisables et fiables, et qu'on n'ait pas le traditionnel micro dont on oublie de retourner la cassette qui arrive au bout, hein, avec les piles qui sont usées et les éternels bruits de fond. Donc essayer de faire les choses d'une façon de façon à peu près correcte. Ce que vous pouvez peut-être faire, Bernard, c'est peut-être dire un petit peu qui est qui et qu'on fasse un petit peu le tour de la table pour faire une présentation un petit peu de tout le monde, que chacun sache un peu. Je sais que dans les conventions américaines, on a toujours son petit badge avec son pedigree, etc.
Donc moi j'ai la lourde charge de m'occuper en tant que rédacteur en chef de ce hors-série. Je suis très peu spécialisé, pour moi j'étais très peu spécialisé dans la question il y a quelques années. Donc c'est, je dirais, une investigation très récente. Donc il a fallu que je suive des cours de rattrapage, si je puis dire. Il n'y a pas eu de charge à mot. Par ailleurs, donc je me suis entouré de deux conseillers historiques et techniques. Là aussi, il a fallu que je prenne l'attraction de tous les ufologues, parce que bien évidemment, le problème des ufologues, c'est essentiellement un problème de religion, parce que je dirais que ce sont des apparatchiks.
Avec lesquels... pour les personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'est le terme ufologue.
Oui, ufologue vient simplement du terme anglais UFO, United Flying Object. Et on a trouvé qu'en fait, il n'y avait pas d'équivalent à ovniologue, ça ne passait pas, donc on a trouvé une espèce de franglais qui puisse convenir à tout le monde, et c'était en fait le terme ufologue qui a primé. Donc les ufologues, bon, bien évidemment, sont des gens qui ne sont pas, trop orientés, si vous voulez, sur le problème de croyance, qui sont assez, assez restreints dans leur méthode de pensée, ce ne sont pas des spécialistes, et ils ont la fâcheuse habitude de ne pas aborder le problème, et surtout de rendre des comptes entre eux, ce qui ne facilite pas la tâche d'un journaliste d'investigation, et encore moins d'une équipe rédactionnelle. Donc je me suis entouré pour cela de deux conseillers techniques, historiques, donc ils sont présents, Jean Grélet, ancien commandant de bord sur 747, ancien pilote de chasse dans les Air Force, et qui a donc également connu différents phénomènes en tant que pilote. Et le dernier en date, donc lui ne fait pas en tant que pilote, mais enfin, je dirais quand même qu'il laisse un petit peu à réfléchir. Cette personne qui est présent donc sur la table, c'est Alain Boudier. Alain Boudier lui-même, je dirais, un grand connaisseur du phénomène, puisque je crois qu'il suit la question depuis près de 40 ans, si je ne m'abuse. C'est un spécialiste également historique, parce qu'il connaît très bien les références des années, surtout en ce qui concerne les cartes françaises. Donc il y a Dégalin également qui est là et qui est le rédacteur en chef adjoint et qui m'aide dans la lourde tâche de tout organiser, surtout de tout relire, parce que la moindre imperfection, bien évidemment, ne doit pas passer. Alors ça, c'est, je dirais, le côté off qui est quelque chose d'indispensable dans une publication de ce genre, ça c'est évident. Voilà, je pense que j'ai oublié personne.
Ah, Jean-Jacques,
oui. Jean-Jacques Pou, qui est connu, je pense pas que ce serait mieux peut-être Jean-Jacques que tu expliques.
J'ai demandé à Jean-Jacques si ça l'intéressait de venir autour de cette table, donc c'est un...
Non, il se trouve que, je m'en expliquais d'ailleurs avec M. Bar tout à l'heure, j'ai été témoin d'une apparition relativement rapprochée, mais à une époque, en 54, où personne ne pensait à ça. Jimmy Gunn n'existait pas tout à fait encore.
Tout à fait. Tout juste.
C'était à quelques années près.
Tout juste. Et moi, j'étais, à partir de 14 ans, j'ai commencé à faire une école de pilotage par le biais du BESA d'abord, brevet élémentaire des sports aériens, ensuite par le vol à voile. Et j'étais un des défricheurs de Saint-Auban, puisque Saint-Auban n'était pas vraiment centre national, commençait à peine. Et j'ai commencé le voile à voile là. On ne savait pas ce que c'était que l'onde, on connaissait très peu les phénomènes ondulatoires. Et pourtant, au-dessus de la mur, il y avait pas mal de lenticulaires. Et à cette époque-là, ce que j'expliquais tout à l'heure, il y avait énormément de recherches très très diverses. Vous me corrigerez, puisque vous êtes historien, notamment en matière de tridents, de coléoptères. Et tout ça se passait à Istres, donc à proximité de chez moi, puisque je suis arlésien. J'ai été témoin à Saint-Rémy d'une espèce d'apparition d'objets bizarres, opaques d'ailleurs, pas du tout phénomène lumineux, mais
un objet qui a occulté le soleil et qui a fait que bon, j'ai dit c'est un engin de plus expérimental. Mais j'avais, on a eu une peur terrible. Moi j'étais avec un copain qui faisait du vol à voile avec moi à Saint-Coupin aussi. Et la peur que nous avons eue, c'est de se faire écraser par un type en difficulté qui cherchait à se poser par tous les moyens et sur de l'eau plutôt que sur de la terre pour éviter de casser l'appareil, du moins de l'endommager. Donc le premier souci qu'on a eu, c'est d'essayer de s'enlever de dessous cet engin qui était relativement important. Et on a couru le long de la colline, donc cette escarpement, pour essayer de se dégager du dessous de l'appareil, et quand on est arrivé à peu près à sa hauteur, le truc a basculé. Phénomène de libration, un peu comme une toupie, comme ça, un peu anarchique d'ailleurs, pas du tout régulier, pas comme une toupie qui a une libration qui est relativement régulière, mais là il y a une espèce d'hésitation, passage sur la tranche et démarrage dans le sens du plus grand mètre couple, ce qui est quand même assez curieux. Tout ça sans bruit. Et laissant en rémanence une espèce d'odeur très particulière que j'ai découverte après être de l'ozone, enfin provoquée par l'ozone, puisque mon père avait une usine de frigorifique à Arles et avait décidé 3 ans après de monter un transformateur pour transformer la force motrice directement en lui, plutôt que de recevoir de la force motrice qui lui coûtait beaucoup plus cher. Et lors de la mise en service de ce transformateur, qui a été en service, j'ai senti la même odeur. Je me dis, tiens, c'est une espèce de souvenir qui est venu au factif, comme ça. Et je me dis, tiens, c'est curieux, c'est la même odeur que j'ai senti. J'ai d'ailleurs appelé mon copain pour dire, viens voir, ça sent la même chose que. Et à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu enquêté, mais malheureusement, je me suis retrouvé dans une commission qui s'appelait, que vous connaissez très bien, qui s'appelait la commission Voranos, et que j'ai très vite découvert être une espèce de prolongement médiatico-publicitaire pour la vente des bouquins de M. Jimmy. Et que j'ai enquêté avec des gens qui étaient sérieux d'ailleurs dans cette commission. Il y avait des gens qui étaient très honnêtes, très sérieux. Mais très vite, cette commission était en fait une espèce de bras armé de personnes qui avaient besoin de. Mais ce qui n'empêche que, au cours de ces enquêtes, par la suite j'ai fait partie aussi de la SOBET, mais au cours de ces enquêtes successives, il m'a été donné de voir des phénomènes, des traces, des choses comme ça qui ont été faites. Mais cela dit, je n'ai jamais pu me faire une opinion véritable. Le fait de dire phénomène extraterrestre, tout ça, moi ça m'énerve directement, parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est, on ne sait pas. Quand on dit phénomène extraterrestre, ou objet, ne serait-ce qu'objet volant non identifié, déjà moi ça me gêne beaucoup, parce que encore faut-il prouver que c'est intelligent, que ce n'est pas une imagerie holographique ou autre qu'on nous projette pour nous tirer vers quelque chose. Enfin, tout est possible là-dedans, même. Rémi Chauvin, avec qui j'en avais discuté, m'avait dit qu'il est possible de se trouver devant une manipulation du temps.
Le terme reconnu est PAN, phénomène aérien non identifié. C'est un terme qui est assez standard et bien pratique. Pardon.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tellement son observation qui nous intéresse, parce qu'elle est comme toutes ces observations, en fait, elles n'ont que la valeur du témoignage humain et en même temps sa faiblesse. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, même si c'est caricaturiste de presse, je dirais, reconnu, je pense qu'il a un sérieux bagage scientifique et que c'est intéressant effectivement d'intervenir après un petit peu plus loin dans le débat.
Le rôle de Tandy de Bourgoin,
le Luron.
Parce que effectivement, je crois que notre rôle n'est pas d'être convaincu, autrement. Il n'y a pas de débat. C'est d'essayer petit à petit, je dirais, d'isoler un certain nombre de cas qui peuvent poser problème, de tenter de les expliquer, ou en tout cas de les poser, de croiser un certain nombre d'observations, d'expériences pour dire, bah voilà, ça, tout ça ne s'explique pas par le plus pur des rationalismes.
Case des marais.
Voilà.
Chère Annette.
Merci bien. De boire un petit peu de vin. Alors, est-ce que
Bonjour, bienvenue à tous sur Radio Ici et Maintenant 95.2.